Courbons maintenant la tête pour prier. Notre Père Céleste, nous te remercions ce soir pour cette nouvelle occasion de venir t'adorer. Nous sommes reconnaissants d'être vivants et d'avoir cette glorieuse révélation de la vie éternelle qui demeure en nous. Et nous sommes venus ce soir, Père, pour étudier ensemble ta parole, ces grands mystères cachés qui ont été cachés depuis la fondation du monde. Et l'agneau est le seul à pouvoir nous les révéler. Je prie qu'il vienne au milieu de nous ce soir, qu'il prenne de sa parole et nous la révèle, pour que nous sachions comment être de meilleurs serviteurs pour lui en ces temps de la fin. Ô Dieu, nous voyons que nous sommes maintenant au temps de la fin. Aussi, aide-nous à reconnaître notre position, Seigneur, et la fragilité de notre être, et la certitude de la venue prochaine du Seigneur. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Je crois que c'est David qui a dit, « Je suis dans la joie quand on me dit, « Allons à la maison de l'Éternel. » C'est toujours un grand privilège d'y venir. Et d'étudier la parole ensemble, ça nous donne cette glorieuse espérance. Maintenant, il y a beaucoup de monde debout. Aussi, je vais faire vite, aussi vite que possible. Mais j'espère bien que vous avez apprécié comme moi la présence du Saint-Esprit les quelques fois passées. Et aujourd'hui, il m'est arrivé quelque chose que je n'avais pas eu depuis longtemps. J'étais en train d'étudier là-dessus, cette révélation, ici, l'ouverture du sceau. Il y a bien des années, j'en avais parlé rapidement ici, il doit y avoir une vingtaine d'années, je pense, ou quelque chose comme ça, mais pour une raison ou pour une autre, je n'en étais pas vraiment satisfait. Il semblait y avoir des choses, plus particulièrement dans les sceaux, parce que les sceaux sont le livre tout entier. Voyez, c'est le livre tout entier, c'est un seul livre scellé. Ça commence, par exemple, si j'avais quelque chose ici, je vous montrerai ce que je veux dire. Voici un sceau, ça fait un, et vous le roulez comme ceci, comme il était roulé. Alors vous le roulez comme ceci, et au bout, il y a un petit morceau qui dépasse, comme ça, c'est le premier sceau. Très bien. Donc ça, c'est la première partie du livre. Et puis, le sceau suivant est enroulé de cette manière-ci, juste à côté. Et il est enroulé de cette manière, comme ceci. Et au bout, ici, il y a un autre morceau qui dépasse. Donc, ça fait deux sceaux. Et c'est comme ça que toute la Bible a été écrite, en rouleau. Et alors, quand on brise ces sceaux, cela ouvre les mystères du livre. Est-ce que vous avez pu étudier dans Jérémie la façon dont il avait écrit cela? Beaucoup d'entre vous l'avaient noté hier soir, la façon dont ces sceaux avaient été écrits et conservés jusqu'à son retour, après les 70 ans de captivité. Il devait revenir et réclamer son bien. Et j'aime vraiment beaucoup étudier cela. On ne peut pas... Il n'y a aucun moyen d'exprimer tout cela, parce que c'est une parole éternelle, et c'est un livre éternel. Alors, nous devons nous limiter aux grandes lignes. Et aujourd'hui, en étudiant, j'ai noté beaucoup de versets bibliques pour que vous puissiez étudier cela. Et aussi, et en étudiant les bondes, vous en révéleront beaucoup. Et il y a tellement de choses. Si seulement je pouvais me tenir ici, sur l'estrade, et vous le révélez de la façon dont cela m'est révélé dans mon bureau. Oh, ce serait merveilleux. Mais quand on est ici, on est pressé par le temps, ce qui fait qu'on saute des choses. On tâche d'apporter le principal aux gens pour qu'ils puissent le voir. J'aime vraiment beaucoup ce chant que frère Angrim vient de chanter, « Descendu de la gloire ». S'il n'était pas descendu de la gloire, où serions-nous tous ce soir? Alors nous sommes reconnaissants de ce qu'il soit descendu pour nous aider. Maintenant, comme il y a beaucoup de monde debout, on va faire vite ici, le plus possible. Je ne dis pas qu'on va faire vite, mais je veux dire qu'on va commencer aussi vite que possible. Et maintenant, prenons maintenant, après, nous avons vu les chapitres 1, 2, 3 et 4. Et hier soir, le chapitre 5. Et ce soir, nous commençons au chapitre 6 de l'Apocalypse. Maintenant, en étudiant ce chapitre, nous nous référons à plusieurs passages, de l'Ancien comme du Nouveau Testament, les deux, parce que le livre tout entier est la révélation de Jésus-Christ. Voyez, tout cela constitue la révélation du Seigneur Jésus, la révélation de Jésus-Christ. C'est Dieu qui se révèle dans le livre, qui se révèle à travers Christ dans le livre. Et Christ est la révélation de Dieu. Il est venu révéler Dieu, parce que lui et Dieu, c'était la même chose. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Autrement dit, vous n'auriez jamais vraiment su ce que Dieu était s'il ne s'était pas révélé à travers Christ. C'est là que vous pouvez voir. Il y a bien des années, je pensais que Dieu était peut-être fâché contre moi, mais que Christ m'aimait. Mais j'ai fini par découvrir que c'est la même personne, voyez-vous, et Christ est le cœur même de Dieu. Et alors, en étudiant ceci, là, nous faisons un parallèle. Les trois premiers livres de la Bible, de l'Apocalypse, et nous avons étudié ces choses d'assez près, ce sont les âges de l'Église. Les sept âges de l'Église. Or, il y a sept âges de l'Église, sept sceaux, sept trompettes, coupes et esprits impurs semblables à des grenouilles, et tout cela va ensemble. Oh, comme j'aimerais avoir un immense plan et dessiner toutes ces choses comme je les vois. Vous savez, montrer comment chacune d'elles se place. Je l'ai dessiné sur une petite feuille de papier. Mais vous le savez, et jusqu'ici, tout est parfaitement juste, et selon le temps et les âges qui sont venus et qui ont passé, et tout s'est parfaitement bien ajusté ensemble. Alors, peut-être que ce n'est pas entièrement juste, mais en tout cas, c'est toute la connaissance que j'en ai. Et je sais que si je fais de mon mieux, et que je fais une erreur en essayant de faire de mon mieux, du mieux que je peux, Dieu me pardonnera sûrement d'avoir fait cette erreur, si je me suis trompé. Mais donc, ces trois premiers livres, ce sont les premiers sept âges de l'Église. Et ensuite, nous voyons au chapitre 4 de l'Apocalypse que Jean est enlevé. Voyez, nous voyons les Églises. Il n'est pas dit grand-chose au sujet des âges de l'Église. C'est là, je pense, que les gens vont être vraiment surpris. Ils placent l'Église là-bas dans la tribulation, dans ces choses qui doivent arriver. Et, comme je le disais dimanche, hier, tout à coup, les tribulations seront là. Et vous vous demanderez comment il se fait que ça n'a pas été la première venue, c'était l'enlèvement. Et il en sera comme il en a été. C'est passé et vous ne vous en êtes pas aperçu, voyez ? Maintenant, il n'y a pas beaucoup de promesses qui concernent cette Église et nation, l'épouse. Or, je veux que vous reteniez bien ceci. Il y a une Église et une épouse. Voyez, il faut toujours considérer que les choses vont par trois. Par quatre, ça ne va pas. Par trois, les trois, les sept, les dix, les douze, les vingt-quatre, les quarante et les cinquante. Ces nombres intacts. La Bible est, et Dieu dirige ses messages avec les noms, les nombres de la Bible, avec ces nombres-là. Et si vous trouvez quelque chose qui s'écarte de l'un de ces nombres, faites bien attention. La chose suivante ne sera pas juste. Vous devez ramener tout cela ici à votre point de départ. Frère Vail, frère Lee Vail, je pense qu'il est ici. L'autre jour, on parlait des gens qui font fausse route. C'est comme tirer à la cible. Si le fusil est ajusté parfaitement, qu'il est parfaitement dirigé et pointé, il doit atteindre la cible, à moins que le canon bouge, qu'il dévie, ou qu'une vibration le fasse changer de direction, et un coup de vent. Quel que soit le point de départ, il n'y a qu'une façon de faire, c'est de revenir au point où ça a dévié et recommencer pour pouvoir atteindre la cible. Autrement, eh bien, on n'atteint pas la cible, c'est tout. Et je crois que c'est pareil quand on étudie l'Écriture. Si on voit qu'on part sur quelque chose ici et que ça ne donne rien de juste, qu'on a fait une erreur quelque part, alors il faut revenir en arrière. Vous n'arriverez jamais à résoudre cela avec votre intelligence. Ce n'est simplement pas, nous venons de voir par les Écritures qu'il n'y a aucun homme dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, aucun homme qui ait jamais été ou qui sera jamais qui puisse le faire. Il n'y a que l'agneau qui puisse le faire. Alors, les exclamations des séminaires, quelles qu'elles soient, ne valent absolument rien. Voyez, il faut que ce soit l'agneau qui le révèle. Voilà tout. Alors, nous espérons qu'il nous viendra en aide. Au chapitre 4, Jean est enlevé pour voir les choses qui ont été, qui sont et qui seront. Mais pour ce qui est de l'Église, ça se termine au chapitre 4. Alors Christ enlève l'Église, qui est ravie dans les airs à sa rencontre. Elle ne reparaît plus jusqu'au chapitre 19, quand il revient avec, en tant que roi de rois et seigneur des seigneurs, avec l'Église. Et maintenant, oh, j'espère qu'un jour nous pourrons étudier toutes ces choses à fond, peut-être avant qu'ils viennent. Sinon, eh bien, nous les verrons de toute façon, alors ça ne fait rien. Maintenant, au chapitre 5, ici, l'ouverture des sceaux. Et maintenant, le livre scellé de 7 sceaux. Nous voulons d'abord lire le premier sceau. Hier soir, pour ajouter un peu au contexte, nous avons vu là quand Jean a regardé et qu'il a vu que le livre était encore entre les mains du propriétaire originel, Dieu. Vous vous souvenez comment il avait été perdu? Par Adam. Il a dû abandonner le livre de vie pour avoir la connaissance de Satan et il a perdu son héritage. Il a tout perdu. Et il n'y avait aucun moyen de rédemption. Alors Dieu s'est fait semblable à l'homme. Il est descendu et il est devenu notre rédempteur pour nous racheter. Et maintenant, nous voyons que ces choses qui étaient mystérieuses dans le passé doivent nous être dévoilées dans les derniers jours. Bon, et nous avons aussi vu là qu'aussitôt que Jean a entendu cette annonce qui demandait aux parents rédempteurs de s'avancer et de faire valoir ses droits, il n'y a aucun homme qui a pu le faire. Aucun homme dans le ciel, aucun homme sur la terre, aucun homme sous la terre. Personne n'était digne, même de regarder le livre. Pensez un peu à ça. Pas une seule personne n'était même digne de le regarder. Et Jean a simplement fondu en larmes. Il savait que, oh, dans ce cas-là, il n'y avait aucune possibilité de rédemption. C'était l'échec total. Mais nous voyons que très vite, ses pleurs se sont arrêtés. Très vite, à cause de l'annonce qu'a faite l'un des quatre êtres vivants, ou plutôt des anciens. L'un des anciens a dit, « Ne pleure pas, Jean, car le lion de la tribu de Juda a prévalu. » Autrement dit, a triomphé et a vaincu. En se tournant, Jean a vu sortir un agneau. Il devait être sanglant, tailladé, blessé. Il avait été immolé. Il a dit un agneau qui avait été immolé. Et naturellement, il était encore couvert de sang. Si vous aviez égorgé l'agneau et que vous l'ayez tué de la façon dont cet agneau-là l'avait été, en tout cas, il avait été mis en pièces, sur une croix, des lances dans le côté, des clous dans les mains et les pieds, des épines dans le front. Il était dans un état lamentable. Et cet agneau s'est avancé. Il est allé vers celui qui était assis sur le trône et qui détenait le titre de propriété de la rédemption, au complet. Donc, l'agneau s'avance. Il prend le livre de la main de celui qui était assis sur le trône. Et il l'a pris, il a ouvert les sceaux et il a ouvert le livre. Et quand ça s'est arrivé, nous avons vu que quelque chose de glorieux a dû se passer dans le ciel. En effet, les anciens, les 24 anciens, les êtres vivants et tout dans le ciel s'est écrié « digne ». Et voilà que les anges ont répandu les coupes des prières des saints. Les saints sur l'autel se sont écriés « Tu es digne, ô agneau, car tu nous as rachetés et maintenant tu as fait de nous des rois et des sacrificateurs et nous gouvernerons sur la terre. » Oh là là! Et voilà, donc, quand il a ouvert ce livre, Vous voyez, en fait, le livre a été préparé et écrit avant la fondation du monde. En réalité, ce livre-ci, la Bible, a été écrit avant la fondation du monde. Et Christ, comme il est l'agneau, il a été immolé avant la fondation du monde. Et les membres de son épouse, leurs noms ont été écrits dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde. Seulement, il était scellé, et maintenant, il est en train d'être révélé. Ceux dont les noms étaient à l'intérieur, tout ce qui s'y rapporte, est comme c'est glorieux. Et Jean, en voyant ça, il a dit, « Tout dans le ciel, tout sous la terre, tout l'a entendu dire, Amen, louange et honneur. » Il passait vraiment un moment béni, et car l'agneau était digne. Et maintenant, l'agneau est là. Maintenant, ce soir, alors que nous abordons ce chapitre 6, il tient le livre dans sa main. Et il commence à le révéler. Et oh, aujourd'hui, j'aurai absolument, et j'espère que les gens sont spirituels, j'aurais fait une erreur terrible à ce sujet si, vers midi aujourd'hui, le Saint-Esprit n'était pas venu dans la pièce pour me corriger sur quelque chose que j'étais en train de prendre en note pour le dire. Je prenais cela dans d'anciennes notes. Je n'avais rien là-dessus. Je ne sais rien non plus du deuxième sceau, rien du tout. Mais j'avais repris d'anciennes notes, quelque chose que j'avais prêché il y a plusieurs années, et je le prenais en notes. Et ces notes, je les avais puisées chez le docteur Smith. Je les avais puisées chez de nombreux éminents docteurs. Et ils croyaient tous cela. Alors, je l'avais noté. Et je me préparais à dire, eh bien, maintenant, je vais faire mon étude en l'envisageant de ce point de vue-là. Et voilà que, vers midi, le Saint-Esprit est descendu d'un coup dans la pièce. Et toute la chose m'a été dévoilée. Et voilà, vous voyez, c'était le premier sceau qui était ouvert. Aussi sûr que je suis ici devant vous ce soir, ce que je vais dire ici, c'est la vérité de l'Évangile. Je le sais. En effet, si une révélation est contraire à la parole, alors ce n'est pas une révélation. Et vous savez, certaines choses peuvent paraître absolument vraies, et pourtant, elles ne sont pas vraies. Voyez, elles en ont l'air, mais ne le sont pas. Donc, nous voyons que l'agneau a le livre, là. Et maintenant, au chapitre 6, voici ce que nous lisons. « Je regardais quand l'agneau ouvrit un des sept sceaux, et j'entendis l'un des quatre êtres vivants qui disait, et comme d'une voix de tonnerre, « Viens et vois !» Je regardais, et voici parut un cheval blond. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Donc, c'est le premier sceau, celui que nous allons essayer, par la grâce de Dieu, d'expliquer ce soir. Le mieux possible, et je me rends bien compte que pour un homme, essayer d'expliquer cela, c'est s'aventurer sur un terrain glissant, si on ne sait pas ce qu'on fait, voyez? C'est pourquoi, si cela m'est donné par révélation, je vous le dirai. Si je dois aller le chercher dans ma propre pensée, alors je vous le préciserai avant d'en parler. Mais aussi sûr que je suis devant vous ce soir, cela m'a été fraîchement donné aujourd'hui par le Tout-Puissant. Je ne suis pas porté à juste dire les choses comme ça, quand il est question de cette partie de l'Écriture. J'espère que vous savez de quoi je parle, là, vous voyez. Or, vous savez, et il y a des choses que vous ne pouvez pas dire. Si quelque chose est censé se trouver ici, avant que cela arrive, vous ne pouvez pas le dire tant que quelque chose ne l'a pas placé là, voyez. Est-ce que vous me comprenez? Êtes-vous à l'écoute de quelque chose? Voyez. Donc, le livre scellé de sept sceaux qui était roulé est maintenant en train d'être délié par l'agneau. C'est ce que nous abordons ce soir. Que Dieu nous aide. À mesure que les sceaux sont brisés et déliés, les mystères du livre sont révélés. Maintenant, vous voyez, ceci est un livre scellé. Maintenant, nous croyons cela, n'est-ce pas? Nous croyons que c'est un livre scellé. Or ça, nous ne le savions pas avant, mais il l'est. Il est scellé de sept sceaux. C'est-à-dire qu'au dos du livre, le livre est scellé de sept sceaux. Si on parlait d'un genre de livre comme celui-ci, ce serait comme si on l'entourait d'une courroie, de sept courroies. Mais ce n'est pas ce genre de livre-là. C'est un rouleau. Alors, quand le rouleau est déroulé, ça fait un. Ensuite, à l'intérieur de ce rouleau, il y a le numéro 2. Et c'est juste ici qu'il est dit ce qu'il en est. Mais c'est un mystère. Mais quand même, nous avons sondé cela. Seulement, rappelez-vous, le livre est scellé. Et le livre est le livre de mystère, de révélation. C'est la révélation de Jésus-Christ, vous voyez, un livre de révélation. Or, vous savez que tout au long de l'âge, les hommes ont sondé et cherché à pénétrer cela. Nous l'avons tous fait. Et pourtant, je me rappelle qu'une fois, si par hasard, M. Bohannon était ici, ou quelqu'un de sa famille, je ne dis pas ça pour l'insulter. M. Bohannon est un ami très cher. Il était chef de service quand je travaillais pour les services publics. Je venais juste d'être sauvé, et je lui racontais que j'étais en train de lire le livre de l'Apocalypse. Il a dit, « J'ai essayé de lire ça. » Il a dit, « Et M. Bohannon était un brave homme, et il était un membre d'église. Et je ne sais pas au juste à laquelle il appartenait. Mais il a dit, « Je pense que Jean a dû manger des piments rouges pour souper ce soir-là et qu'il est allé se coucher l'estomac bien rempli. » Je lui ai dit, « Ça aurait pu me coûter ma place. » Mais je lui ai dit, « Vous n'avez pas honte de dire ça ?» Et j'étais encore tout jeune. Mais j'ai dit, « Vous n'avez pas honte de dire ça de la parole de Dieu ?» Voyez. Pourtant, et j'étais encore tout jeune, pas plus de peut-être 21 ou 22 ans, le travail était rare et nous étions en pleine crise. Mais pourtant, il y avait une crainte à l'intérieur de moi quand je dénaturais, d'entendre quelqu'un dénaturer la parole de Dieu. Elle est la vérité, toute la vérité. Alors, ce n'était pas même un rêve, ni un cauchemar. Ce n'était pas parce que Jean avait mangé. Il était sur l'île de Patmos parce qu'il essayait de mettre la parole de Dieu sous forme de livre. Et il avait été exilé là par le gouvernement de Rome. Et il était sur l'île au jour du Seigneur. Et il a entendu derrière lui une voix de grandes eaux. Il s'est retourné pour regarder. Et il a vu sept chandeliers d'or. Et au milieu d'eux se tenait le Fils de Dieu. Bien. Alors le livre est une révélation. Donc, une révélation, c'est quelque chose qui est divulgué au sujet de quelque chose qui a été révélé. Et maintenant, remarquez bien, pour ne pas l'oublier, il est scellé jusqu'au dernier temps. Voyez, tout le mystère de cela est scellé jusqu'au dernier temps. Nous voyons ça ici dans l'Écriture. Donc, le mystère du livre s'est révélé quand les sceaux sont brisés. Et quand les sceaux sont complètement brisés, le temps de la rédemption est terminé, parce que l'agneau a quitté le lieu d'intercession pour aller prendre possession de ses droits. Entre-temps, il était un médiateur. Mais quand la vraie révélation des sceaux se fait, quand il commence à être brisé, l'agneau sort du sanctuaire. C'est selon la parole. Nous l'avons lu hier soir. Il est sorti du milieu et il a pris le livre. Donc, il n'est plus médiateur. En effet, ils l'ont même appelé un lion. Et ça, c'est le roi. Alors, il n'est pas un médiateur à ce moment-là. Bien que les acteurs de ces sceaux aient commencé au premier âge de l'Église. Maintenant, souvenez-vous-en, pour que vous saisissiez pleinement le contexte, si possible, ou le plus possible. Les acteurs, je vais les appeler comme ça, parce qu'un acteur est un homme qui change de masque, voyez? Et dans cet acte de ce soir, nous allons voir que c'est Satan qui change de masque. Et tous des acteurs. Christ, il a joué son rôle quand il a quitté la forme esprit pour devenir homme. Il n'a fait que revêtir un costume d'acteur. une chair humaine et il est descendu sous la forme d'un homme pour être un parent rédempteur. Donc, vous voyez, c'est simplement sous forme de jeu d'acteurs. C'est pour ça qu'ils sont tous représentés en paraboles et en saints. Et comme on les voit là, sous forme d'êtres vivants, d'animaux et tout, ça fait partie d'un acte. Et ces acteurs ont commencé au premier âge de l'Église, parce que c'était Christ qui se révélait au sept âge de l'Église. Vous le comprenez maintenant? Très bien. Voyez, Christ qui se révélait au sept âges de l'Église. Et puis, au cours des âges de l'Église, un grand désordre s'est installé. Ensuite, à la fin de l'âge de l'Église, le message du septième ange, c'est de prendre ces mystères perdus et de les donner à l'Église. Voyez, maintenant, remarquons ça. Mais à l'époque, ils n'étaient pas révélés dans leur état réel. Hors du temps de la Bible, les mystères étaient là, et ils ont vu ces choses arriver de la façon dont Jean l'a vu ici. Alors il a dit, il y a un cavalier sur un cheval blanc, mais le mystère de cela, il y a un mystère qui se rattache à ce cavalier. Or, ce que c'était, ils ne le savaient pas, mais cela doit être révélé. Mais cela doit être révélé après que l'agneau aura quitté le trône du Père, où il intercédait en tant que parent rédempteur. Je vais dire un petit quelque chose ici, en passant. Maintenant, si quelqu'un prend les bandes, tout homme a le droit de dire ce qu'il veut. Il a droit à ses convictions. Mais si, vous savez, si un prédicateur ne veut pas de ceci parmi ses fidèles, alors dites-leur de ne pas les prendre. Mais ceci, c'est au milieu des gens auxquels j'ai été envoyé pour leur parler. C'est pourquoi je dois révéler ce qui est la vérité. Voyez? Maintenant, l'agneau au temps de l'intercession, ici, il savait qu'il y avait des noms là-dedans, qui avaient été mis là dès la fondation du monde. Et tant que ces noms n'avaient pas encore été manifestés sur la terre, il devait rester là en tant qu'intercesseur. Vous saisissez? La prédestination, parfaitement. Voyez? Très bien. Il devait rester là parce qu'il était venu mourir pour ceux que Dieu avait destinés à la vie éternelle. Voyez? Voyez? C'est par sa prescience qu'il les a vus, pas par sa propre volonté. Sa volonté, c'était qu'aucun ne périsse. Mais par sa prescience, il savait qui périrait et qui ne périrait pas. Par conséquent, tant qu'il restait un nom qui n'avait pas encore été exprimé sur la terre, Christ devait rester là comme intercesseur pour s'occuper de ce nom-là. Mais aussitôt ce dernier nom plongé dans cette eau de Javel, se décolorant, alors c'était la fin des jours de son intercession. Que celui qui est souillé se souille encore. Que celui qui est saint, il est encore saint. Voyez? Et il quitte le sanctuaire qui devient alors un tribunal. Malheur à ceux qui seront en dehors de Christ à ce moment-là. Maintenant, remarquez, mais cela doit être révélé quand l'agneau quittera son lieu d'intercession auprès du Père. Bon, ça, c'est Apocalypse 5. Maintenant, il prend le livre des sceaux, ou un livre scellé de sceaux. Il les brise et les montre. Regardez, à la fin de l'âge, là, une fois l'intercession terminée, que les âges de l'Église sont terminés, il est arrivé au premier âge, à l'âge d'Éphèse. Il a révélé, il a envoyé le messager. Remarquez ce qui se passe alors que nous continuons. En voici le plan. La première chose qui se passe, c'est qu'il y a d'abord une annonce dans les cieux. Qu'est-ce qui se passe? Un sceau est ouvert. Qu'est-ce que c'est? Un mystère est dévoilé. Voyez? Et quand un mystère se dévoile, alors une trompette sonne. Ça déclare une guerre. Un fléau est déversé. Et un âge de l'Église commence. Voyez? Cette guerre, qu'est-ce que c'est? L'ange de l'Église saisit le mystère de Dieu, qui n'est pas encore pleinement révélé. Mais, à ce moment-là, Il saisit ce mystère de Dieu, puis il va vers le peuple. Après que le mystère lui a été donné, il va vers le peuple. Qu'est-ce qu'il fait là? Il commence à proclamer ce message. Et ça déclenche quoi? Une guerre spirituelle. Ensuite, Dieu prend son messager avec les élus de cet âge-là et il les fait reposer à l'écart dans le sommeil. Ensuite, il laisse un fléau s'abattre sur ceux qui ont rejeté le message, un jugement temporaire. Ensuite, une fois que ceci est terminé, alors ça continue et ils s'organisent. Ils introduisent des dénominations avec pour point de départ l'œuvre de cet homme. Par exemple, Wesley et tous les autres. Et alors, tout retombe dans la confusion. Ensuite, un autre mystère apparaît. Alors, qu'est-ce qui se passe? Un autre messager arrive sur la terre pour un âge de l'Église. Voyez? Alors, quand il arrive, la trompette sonne. Il déclare la guerre. Voyez? Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Finalement, là, il est retiré de la scène. Alors, une fois qu'il est envoyé à l'écart dans le repos, un fléau s'abat et les détruit. La mort spirituelle frappe l'Église. C'en est fini de ce groupe-là. Ensuite, il passe à un autre. Oh, c'est un plan glorieux. Finalement, on en arrive à ce dernier ange. Or, lui, il n'a pas de mystère particulier. Mais il rassemble tout ce qui a été perdu dans les autres âges, toutes les vérités qui n'avaient pas encore été véritablement révélées. Vous voyez, dans le cours de la révélation, et il révèle ces choses-là dans son jour. Si vous voulez le lire, c'est là, dans Apocalypse 10, 1 à 4 environ, que vous le trouverez. Très bien. Vous voyez, il prend le livre, et celui des sceaux, et il les brise, et les montre au septième ange. Car le ministère du septième ange, c'est uniquement ceci, les mystères de Dieu. Or, nous venons de voir les âges de l'Église, avec l'histoire même, et nous l'avons démontré. Voyez, c'est le message de l'ange de la septième Église. Donc, il révèle tous les mystères qu'il y a eu dans le passé, toutes les choses du passé. Apocalypse 10, 1 à 7, c'est ce qui doit arriver. Maintenant, souvenez-vous, au jour du septième ange, quand il sonnera, qu'il fera retentir la trompette de l'Évangile, il doit mener à terme tous les mystères de Dieu. C'est comme, voilà qu'est sorti dans les premiers âges de l'Église. On va voir ça un peu plus tard, une doctrine. Et alors, c'est devenu d'abord un dire, ensuite une doctrine, et ensuite c'est devenu une ordonnance, et puis c'est devenu une église, et à travers l'âge des ténèbres. Et de l'âge des ténèbres est sortie la première réforme, Luther. Et lui, il a apporté toutes sortes de choses mystérieuses qui sont arrivées au cours de cet âge de l'Église, pendant toute cette période-là. Mais il n'a jamais mené tout cela à terme. Ensuite, Wesley est arrivé avec la sanctification. Il a apporté quelque chose de plus. Mais encore là, il n'a pas mené cela à terme. Il a laissé une foule de points en suspens, comme l'aspersion au lieu du baptême. Et Luther, lui, utilisait Père, Fils, Saint-Esprit au lieu du Seigneur Jésus-Christ. Toutes ces choses-là. Ensuite est venu l'âge pentecôtiste, avec le baptême du Saint-Esprit. Et là encore, ils se sont organisés là-dessus. Maintenant, il ne peut plus y avoir d'autre âge. Il n'y en a plus. C'est celui de Philadelphie, ou maintenant, l'âge de Laodicée. Mais alors, nous avons vu, en étudiant l'Écriture, que le messager de l'âge arrive chaque fois juste à la fin de l'âge. Paul est arrivé à la fin de l'âge. Nous avons vu qu'Irénée est venu à la fin de l'âge. Martin, la fin de l'âge. Luther, à la fin de l'âge catholique. Et quoi? Wesley, à la fin de l'âge luthérien. Et la Pentecôte, à la fin de l'âge de la sanctification, pour le baptême du Saint-Esprit. Et à la fin de l'âge pentecôtiste, nous devons recevoir selon la parole, et que Dieu m'aide ce soir à vous le montrer ici, que nous devons voir, recevoir un messager qui va prendre tous ces points restés en suspens là-bas et révéler tout le secret de Dieu pour que l'Église soit enlevée. Et puis, il va y avoir sept tonnerres mystérieux qui ne sont même pas écrits du tout. C'est vrai. Et je crois que par ces sept tonnerres, ils seront révélés dans les derniers jours afin de rassembler l'épouse pour la foi de l'enlèvement. En effet, avec ce que nous avons en ce moment, nous ne serions pas capables d'y arriver. Il y a quelque chose. Nous devons aller plus loin. C'est tout juste si nous avons assez de foi pour la guérison divine. Nous devons avoir assez de foi pour être changés en un instant et pour être enlevés de cette terre. Et nous allons voir cela un peu plus tard, si le Seigneur le veut, voir où c'est écrit. Ensuite, tous les jugements de ces méchants. Là, vous voyez, alors que tout au long des âges de ces sceaux, ils se sont brisés, jusqu'à maintenant, où le dernier sceau est brisé. Et donc, alors qu'ils avaient observé ces sceaux et seulement présumé ce qu'ils faisaient, maintenant, à la fin des âges de l'Église, tous ces méchants vont prendre leur place et s'en aller vers la tribulation. Tous ces méchants des sept sceaux qui ont œuvré mystérieusement dans l'Église. Et nous verrons dans un instant que c'est même au nom d'une Église que cela s'est fait. Ils se disent l'Église. Et voyez si ce n'est pas vrai. Ce n'est pas étonnant que je me sois tellement opposé aux dénominations sans savoir pourquoi. Voyez, ils aboutissent, or cela commence ici sous sa forme bénigne, et cela ne fait qu'empirer toujours, continuellement, comme ça, jusqu'à... Et les gens entrent tout droit là-dedans, en disant, « Oh oui, ça, c'est vraiment bien, mais dans les derniers jours, ces choses sont divulguées. » Et à la fin, ils sont tellement corrompus qu'ils vont tout droit dans la période de la tribulation. Comment un homme peut-il déclarer que l'épouse de Christ va dans la tribulation? Je ne peux pas le comprendre. Voyez, elle est emportée loin de la tribulation. Si l'Église a été jugée, s'ils se sont jugés eux-mêmes et qu'ils ont accepté le sang, alors comment Dieu peut-il juger un homme qui est parfaitement, totalement sans péché? Vous dites, une personne comme ça, ça n'existe pas. Chaque croyant né de nouveau, vrai croyant, est parfaitement, absolument sans péché devant Dieu. Il ne se confie pas dans ses œuvres, mais dans le sang de Jésus, dans lequel sa confession a été plongée. C'est la Bible qui le dit. Voyez, celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché, car il ne peut pas pécher. Comment pouvez-vous considérer un homme comme pécheur quand le décolorant du sang de Jésus-Christ est entre lui et Dieu? Il disperse le péché au point qu'il n'en reste plus rien. Voyez, comment ce sang pur de Christ peut-il laisser passer un seul péché? Il ne le peut pas. Jésus a dit, « Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. » Et comment pourrions-nous avoir ne serait-ce que l'idée d'être parfait? Pourtant, Jésus l'a exigé. Et si Jésus l'a exigé, il doit en fournir le moyen. Et il l'a fait, son propre sang. Donc, il révèle tous les mystères de ce qu'il y a eu dans le passé. Or, la pensée ici, c'est qu'au temps de la fin, les mystères qui ont commencé il y a très longtemps et qui ont traversé les âges de l'Église doivent être révélés ici à l'ouverture des sceaux, ici, au dernier jour, une fois que le temps de l'intercession est presque terminé, à ce moment-là. Ensuite, les jugements attendent ceux qui sont restés derrière. Ils continuent leur chemin et ils entrent là-dedans. Ça, c'est après que l'épouse a été retirée de la scène. Oh, lisons donc un passage de l'Écriture. Est-ce que vous aimez noter quelques-unes des références bibliques? Prenons 2 Thessaloniciens un instant et on va regarder cela une minute. C'est tellement beau comme tableau. J'aime cela. Et voyons voir. Oui, 2 Thessaloniciens. Et je veux prendre le chapitre 2 de 2 Thessaloniciens et le verset 7. Voyons voir. 2 Thessaloniciens 2, 7. Il me semble bien que c'est ça. Quand je l'ai noté, je frémissais, je tremblais. Le mystère d'iniquité opère déjà. Seulement, celui qui retient le fera jusqu'à ce qu'il soit loin. Qui? Celui qui retient. Vous voyez, un mystère, le mystère de l'iniquité. Il y a très longtemps, au tout premier âge de l'Église. C'est Paul qui écrit ici et qui dit que le mystère de l'iniquité. L'iniquité, c'est quoi? L'iniquité, c'est quelque chose que vous savez que vous ne devriez pas faire et vous le faites quand même. Et Paul a dit que sur la terre aujourd'hui, il y a de ces ouvriers d'iniquité. Oh, si vous, on va arriver à... Lisons donc cette partie-là un instant, en commençant un peu plus haut, au verset 3. Que personne ne vous séduise en aucune manière, car ce jour-là ne viendra pas que l'apostasie ne soit arrivée auparavant et que l'homme, H-O-M-M-E, de péché n'ait été révélé, le fils de la perdition. C'est ça. Qui s'oppose et s'élève contre tout ce qui est appelé Dieu ou qui est un objet de vénération, en sorte que lui-même s'assiera au temple de Dieu, se présentant lui-même comme étant Dieu, remettant les péchés. Ne vous souvenez-vous pas que, quand j'étais encore auprès de vous, je vous disais ces choses? J'aurais aimé être assis là, à écouter quelques-uns de ces enseignements, pas vous? Et maintenant, vous savez ce qui retient pour qu'il soit révélé en son propre temps. Pas en ce temps-là, voyez-vous, pas en ce temps-là, mais en son temps. Vous voyez, à l'ouverture de ce sceau, nous allions savoir exactement ce qu'il en était. Qui est cet homme d'iniquité? Qui est cet homme de péché? Cet individu qui commet l'iniquité. Mais il doit être révélé en son temps. Car le mystère d'iniquité opère déjà. Des imposteurs, vous voyez, qui usent de moyens de séduction pour égarer les gens, vous voyez. Seulement celui, Dieu, qui retient, le fera jusqu'à ce qu'il, l'Église, Christ, l'épouse, soit loin. Et alors sera révélé l'inique, à l'ouverture du sceau, en son temps. Paul a dit, pas de mon temps, mais au temps où il sera révélé. Voyez, que le Seigneur Jésus consumera par l'esprit de sa bouche. Nous y arriverons un peu plus tard. L'esprit de sa bouche. Regardez bien ce que c'est. Et qu'il anéantira par l'apparition de sa venue. Lui dont la venue est selon l'opération de Satan. Lui, un homme, dont l'œuvre est selon l'opération de Satan. En toutes sortes de miracles et signes et prodiges de mensonges, et en toute séduction d'injustice, séduisant les gens par l'injustice, pour ceux qui périssent, pas pour l'épouse, pour ceux qui recherchent les choses semblables, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Et Christ est la vérité, et Christ est la parole. Mais eux, ils aiment mieux avoir un credo. Voyez? Pour être sauvés, et à cause de cela, Dieu leur a envoyé une énergie d'erreur, pour qu'ils croient au mensonge. Ça devrait être traduit, là, j'ai vérifié dans le lexique, par le mensonge, pas un mensonge, le mensonge, le même qu'il a raconté à Ève, afin que ceux-là soient jugés qui n'ont pas cru la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice. Quelle déclaration! Oh là là! Une fois l'épouse enlevée, c'est là que cet homme de péché va se révéler. Elle, la vraie épouse de Christ, elle a été élue et tirée de chaque âge de l'Église. Maintenant, l'autre jour, j'ai déclaré que l'épouse pourrait rentrer à la maison et qu'on n'en ait même pas connaissance. C'est vrai. Quelqu'un a dit, « Mais, frère Branham, ce serait vraiment un petit groupe. » Jésus a dit ce qui arriva au jour de Noé. Maintenant, allez donc lui en parler, à lui, vous voyez, où 8 personnes furent sauvées à travers l'eau, arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. S'ils étaient 800 à partir dans l'enlèvement ce soir, vous n'entendriez pas un mot là-dessus, ni demain, ni le jour suivant, ni jamais. Il serait parti et vous n'en auriez rien su. Voyez-vous, ce serait exactement pareil. Qu'est-ce que j'essaie de dire? Je n'essaie pas de vous faire peur, de vous inquiéter. Je veux que vous soyez vigilants. Tenez-vous prêts. Veillez à chaque minute. Cessez vos sottises. Passez aux choses sérieuses avec Dieu, parce qu'il est plus tard que vous ne le pensez. Maintenant, souvenez-vous, la vraie épouse. Or, il y a une fausse épouse. On la trouve dans Apocalypse 17. Elle a dit, « Je suis veuve et je n'ai besoin de rien. » Vous voyez, assise sur cette baie, écarlate, et ainsi de suite, la bête plutôt. Bon, mais la vraie épouse sera formée de milliers de gens. Mais ce seront les élus de chaque âge de l'Église. Chaque fois qu'un message a été proclamé et que les gens l'ont cru et accepté dans toute sa lumière, alors ils ont été scellés et mis à part jusqu'à ce jour de la rédemption. Jésus n'enseigne-t-il pas la même chose quand il a dit « le son a retenti à la septième veille ». Ça, c'est le dernier âge de l'Église, voyez. Et il a dit « Voici l'époux, sortez à sa rencontre ». Alors, voilà la Vierge endormie qui arrive. Elle se frotte les yeux et elle dit « Je pense qu'il me faudrait avoir de cette huile. Moi aussi, alors, il faudrait peut-être mieux en avoir ». Et la vraie, la véritable épouse qui était là a dit « Nous en avons juste assez pour nous-mêmes ». Oui, nous en avons juste assez pour rentrer nous-mêmes. Nous ne pouvons rien te donner. Si tu en veux, va te mettre en condition par la prière. Et pendant qu'elle était partie, l'époux est arrivé et l'épouse est entrée. Et alors le reste là, celle qui était absolument vertueuse, l'Église, elle a été laissée dehors. Et il a dit, il y aura des pleurs, des gémissements et des grincements de dents. Voyez-vous? Or, ceux-là, ce sont les élus. Et quand le son a retenti, voici l'époux. Alors tous ceux qui s'étaient endormis tout au long des âges se sont réveillés. Tous. Voyez-vous, ce n'est pas, comme on pourrait le penser, Dieu qui part en quête de quelques milliers de gens de cet âge-ci seulement pour les enlever. Il s'agit des élus même, de chaque âge. Et c'est pour cette raison que Christ doit rester là, sur le trône de médiation, en tant qu'intercesseur, jusqu'à ce que le dernier entre au dernier âge. Et à ce moment-là, les révélations de ce qu'il en était sont données aux gens. Et ils voient ce qui est arrivé. Voyez, maintenant, vous saisissez? Très bien. Remarquez, les autres morts, les membres d'Église, ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que 1000 ans soient accomplis. Les membres d'Église, les chrétiens, l'Église, ils ne sont pas revenus à la vie avant la fin des 1000 ans. Et ensuite, ils sont sortis pour se tenir en présence de l'épouse. C'est vrai, pour se tenir en présence du roi et de la reine. Gloire. Dire qu'une église aujourd'hui se dit la reine du ciel. La reine du ciel, c'est l'épouse choisie de Christ. Et elle arrive avec lui. Daniel l'a vu et il a dit, des myriades de myriades le servaient. Observez bien l'écriture là, dont Daniel. Le jugement s'assit et les livres furent ouverts. Maintenant, rappelez-vous, quand il est arrivé avec son épouse. La femme sert son mari et des myriades de myriades de milliers le servaient. Le jugement s'assit et les livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Il ne s'agit pas du tout de l'épouse. Elle est montée et elle est revenue. Et elle se tient là pour juger les générations qui ont refusé le message de l'Évangile. Jésus n'a-t-il pas dit, « La reine du Midi se lèvera avec cette génération en son temps pour le jugement, et elle condamnera cette génération, car elle vint des extrémités du monde pour entendre la sagesse de Salomon. » Et il y a ici plus que Salomon. C'était le jugement, la reine de Séba, du Midi. Elle était là, au jugement, avec son propre témoignage. Pas même un juif ne s'est levé avec ces générations de juifs. Ils étaient aveugles et ils ne l'ont pas reconnu. En effet, ils le cherchaient, mais il est venu d'une façon tellement simple qu'ils ont passé complètement par-dessus, comme ça. Et voilà que cette grande reine, elle s'est humiliée, elle est venue et elle a accepté le message. Et elle sera là, au jugement, il a dit, pour condamner cette génération. Maintenant, vous voyez les trois catégories, toujours. Le livre, les morts ont été jugés d'après celui-là. Un autre livre, le livre de vie, ceux dont le nom était dans le livre de vie. Ils disent, si on a son nom dans le livre de vie, alors tout va bien, n'est-ce pas? Non, monsieur. Regardez, Judas Iscariote, son nom était dans le livre de vie. Osez donc dire que c'est faux. Jésus, dans Matthieu 10, leur a donné le pouvoir de chasser les démons. Et il les a envoyés guérir les malades, purifier les lépreux et ressusciter les morts. Ils sont partis et ils sont revenus. Et Judas était là avec eux. Ils ont chassé des démons et ils ont fait toutes sortes de miracles. Ils sont revenus en disant, « Même les démons nous sont soumis. » Jésus a dit, « Ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans le ciel. » Et Judas était avec eux. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand le moment est venu pour le groupe des élus de se rassembler là-haut, à la Pentecôte, pour vraiment recevoir le Saint-Esprit, Judas s'est montré sous son vrai jour. Il sera là au jugement. Alors, les livres ont été ouverts, et un livre, celui de la vie, a été ouvert, et chaque homme a été jugé ainsi. Or, l'épouse, elle est là avec Christ pour juger le monde. Est-ce que Paul ne dit-il pas, quelqu'un de vous, il parle à l'épouse, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes? Ne savez-vous pas que les saints jugeront la terre? Voyez, voilà, les saints vont juger la terre et en prendre le contrôle. C'est vrai. Vous dites, comment donc un petit groupe comme celui-là? Je ne sais pas comment cela va se faire, mais il a dit que cela va se faire, alors pour autant que je sache, ça règle la question. Maintenant, regardez. Maintenant, remarquez. Les autres morts, les membres d'Église morts, ne revinrent point à la vie avant 1000 ans. Ensuite, au bout des 1000 ans, ils ont été rassemblés. Il y a eu une autre résurrection, qui est la deuxième résurrection, et ils ont été rassemblés. Et Christ et l'Église, l'épouse, pas l'Église, l'épouse, Christ est la reine, pas l'Église, Église, Christ et l'épouse étaient là. Et eux, ils ont été séparés, comme on sépare les brebis d'avec les boucs. C'est vrai. C'est là que les membres d'Église comparaissaient. Et s'ils ont entendu la vérité et qu'ils ont rejeté la vérité, alors qu'est-ce qu'il y aura à dire quand toute la chose sera exposée sur le canevas, que même vos propres pensées y seront, ce que vous en pensiez? Comment allez-vous y échapper alors que ce sera là sur le canevas des cieux et la grande télévision de Dieu là-bas? Il y aura là vos propres pensées rebelles. Vos propres pensées témoigneront contre vous en cette heure-là. Alors, si vous dites une chose et que vous en pensez une autre, vous feriez mieux d'arrêter ça. Concentrez vos pensées sur Dieu. Gardez-les pures et ne bougez pas de là. Dites toujours la même chose. Voyez, ne dites pas, « Eh bien, je vais dire que j'y crois, mais je vais aller vérifier. » Croyez-le. Amen. Remarquez, ceux de ce type-là, la raison pour laquelle ils meurent, c'est parce qu'ils passent par la purification de l'épreuve de la tribulation. Parce qu'en fait, ils ne sont pas sous le sang. Ils prétendent l'être, mais ils ne le sont pas. Pourquoi donc aurait-il à passer par une épreuve pour les purifier alors qu'il y a, alors que le décolorant, le sang de Jésus-Christ, enlève de vous tout symptôme de péché et de tout le reste, et vous êtes déjà mort, et votre vie est cachée en lui, par Dieu, et scellée à l'intérieur par le Saint-Esprit. Vous serez jugé pour quoi au juste? Où allez-vous obtenir votre purification? De quoi auriez-vous besoin d'être purifié alors que vous êtes parfaitement sans péché en Christ? Comment? Pourquoi le jugement? Mais c'est ce groupe des endormis que les gens n'arrivent pas à distinguer. Or, pendant des années, ils n'y sont pas arrivés, vous voyez? Mais c'est maintenant l'heure de la révélation. Voyez-vous, où c'est révélé, juste au moment de l'avènement de l'épouse, au dénouement final, où les dernières choses arrivent. Les choses arrivent à leur terme, mon ami. Je le crois. Quand? Je ne sais pas. Je ne peux pas vous le dire. Mais tout ce que je veux vivre ce soir de telle façon que si c'était ce soir, je serais prêt. Voyez, il peut encore venir ce soir. Et il peut ne pas venir avant 20 ans. Je ne sais pas quand il viendra. Mais quel que soit le moment, et ma vie pourrait se terminer ce soir. Alors, tout ce que j'aurais fait ici, ce sera terminé à cette heure-là. Je devrais le rencontrer au jugement dans l'état où j'étais quand je suis parti d'ici. L'arbre tombe du côté où il penche. Souvenez-vous, quand elles sont allées acheter de l'huile, elles... Oh, vous me direz, une minute là, frère Branham. Ça, c'est à voir. Quand elles sont allées acheter de l'huile, quand elles sont revenues, l'épouse était déjà partie. Et la porte était fermée. Elles frappaient en disant, « Ouvre-nous, ouvre-nous !» Mais elles sont restées dans les ténèbres du dehors. Maintenant, si vous voulez un type de cela, regardez bien. « Du temps de Noé, a dit Jésus. » Il y a fait référence. Or, du temps de Noé, ils sont entrés dans l'arche. Mais ils ont été transportés au-dessus pendant le temps du jugement. Seulement, ce n'était pas là le type de l'épouse de Christ. C'est Enoch qui était le type de l'épouse. Enoch, Noé a traversé l'épouse, a traversé la période de la tribulation. Il a souffert, il est devenu ivrogne et il est mort. Mais Enoch a marché devant Dieu pendant 500 ans et il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Il avait la foi pour être enlevé et il s'est simplement mis à marcher. Il s'est élevé dans les cieux. Et il est rentré à la maison, sans même goûter à la mort. Il n'est jamais mort, du tout. C'est un type de « nous, les vivants, qui serons restés, nous ne devancerons pas ou ne ferons pas obstacle aux gens comme nous qui dorment, qui se sont endormis à cause de l'âge humain, de l'état amené par l'âge humain. Ils sont décédés à l'époque, mais ils ne sont pas morts, ils dorment. Amen. » Ils sont endormis, pas morts. Et tout ce qu'il faut, c'est que l'époux les réveille. Oui, et nous les vivants qui serons restés, nous ne ferons pas obstacle à ceux qui se sont déjà endormis. Car la trompette de Dieu sonnera, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux, et nous rencontrerons le Seigneur dans les airs. Et les autres morts ne revinrent point à la vie avant 1000 ans. Et voilà, ils ont passé par la période de la tribulation. Qu'est-ce que c'était? Comme Enoch, vous savez, Noé observait Enoch. En effet, quand Enoch a disparu, il a su que le jugement était proche. Alors, il restait près de l'arche. Mais Noé n'est pas monté. Il a seulement été soulevé un petit peu et il a vogué au-dessus des tribulations. Il a été transporté à travers la période de la tribulation pour passer par la mort. Voyez? Mais Noé a été transporté à travers. Enoch, lui, a été enlevé sans passer par la mort. Un type de l'Église qui est enlevé avec ceux qui dorment à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et le reste de l'Église est transporté à travers la période de la tribulation. En tout cas, moi, je ne peux pas le comprendre autrement. Enoch, enlevé sans passer par la mort. Maintenant, commençons un peu notre étude là. Abordons notre leçon. Si je continue là-dessus, on n'arrivera jamais assez à ce saut. Maintenant, remarquez, prenons maintenant, vu qu'en cours de route, peut-être demain soir ou le soir suivant, il faudra aborder une trompette de temps à autre, étant donné que la trompette sonne en même temps que les sceaux. C'est exactement pareil. L'âge de l'Église commence. C'est exactement pareil, voyez? Or, une trompette indique toujours une guerre ou bien des troubles politiques. La trompette indique des troubles politiques qui, eux, entraînent la guerre. Quand on se met à faire du jeu politique et qu'elle devient toute corrompue, comme c'est le cas en ce moment, alors attention, la guerre est proche. Mais, vous voyez, le royaume appartient encore à Satan. Il a encore cette partie-là dans sa main. Comment ça? Il est racheté par Christ, mais celui-ci est en train de remplir le rôle de parent rédempteur. Il prend ses sujets jusqu'à ce que le dernier, non, qui a été inscrit dans ce livre, jusqu'à ce qu'il ait reçu cela et qu'il ait été scellé et mis à part. Vous avez saisi, là? Alors il vient de son trône, du trône de son père, Il s'avance, il prend le livre de la main de Dieu sur le trône et il réclame son bien. La première chose qu'il fait, c'est de faire venir son épouse. Amen. Ensuite, qu'est-ce qu'il prend? Il prend son adversaire, Satan, il le lie et le jette là-bas dans le feu, avec tous ses disciples. Maintenant, rappelez-vous, ce n'était pas la Russie. Non, l'Antichrist, c'est un enjôleur. Regardez bien comme il est enjôleur. Intelligent, il l'est. Oui, monsieur, il n'y a que le Saint-Esprit. C'est le seul qui puisse l'emporter sur lui. Remarquez, les trompettes représentent des troubles politiques, des guerres. Dans Matthieu 24, Jésus en a parlé. Il a dit, « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. » Vous voyez, tout le long. Vous vous souvenez de Jésus en a parlé. Des guerres, des bruits et des guerres et des bruits et des guerres et ainsi de suite jusqu'à la fin. Or ça, ce sont les trompettes qui sonnent. Maintenant, quand nous aborderons les trompettes, nous retournerons en arrière pour voir chacune de ces guerres et vous montrer qu'elles suivaient ces églises, vous montrer qu'elles suivent ces sceaux, des guerres et des bruits de guerre. Mais une trompette, ça indique des troubles politiques. Par contre, les sceaux, c'est lié aux troubles religieux. Voyez, un sceau est ouvert, un message est donné. Alors, l'Église est toujours tellement ancrée dans ses propres mœurs politiques et tout le reste, et dans tout son décorum. Et quand le vrai message est donné, le messager va de l'avant et il les secoue dans tous les sens. C'est vrai. Il y a des troubles religieux quand un sceau est ouvert. C'est bien ce qui s'est passé. Eh oui, oui, on prend toutes ses aises en Sion. L'Église s'installe confortablement et c'est dans la poche. Par exemple, l'Église d'Angleterre était bien installée. L'Église catholique, bien installée. Et voilà Luther qui arrive. Il y a eu des troubles religieux. Oui, monsieur, certainement. Eh bien, l'Église a continué avec Zwingli. Et après Zwingli, il y en a eu plusieurs autres. Et Calvin. Et au bout de quelques temps, l'Église anglicane s'est installée. Et elle était bien à son aise. Et voilà Wesley qui arrive. Il y a eu des troubles religieux. C'est vrai. Vous voyez, c'est toujours le signe de troubles religieux. Maintenant, le sceau. Lisons donc un peu ce qu'il en est là. Je veux... veut prendre ça, là, on va le lire. Je me mets à parler. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des sept sceaux. Qu'est-ce qui s'est passé? Et j'entendis comme d'une voix de tonnerre. Oh, comme j'aimerais m'arrêter là-dessus pendant quelques minutes. J'espère bien que tous ceux qui connaissent ces choses et qui attendent la consolation du Seigneur vont étudier ceci très attentivement maintenant. Et ceux qui écoutent les bandes aussi, que vous allez méditer ça. La première chose qui s'est passée quand cet agneau a brisé le premier sceau, c'est qu'un tonnerre a grondé. Or cela a une signification, c'est significatif, cela a un sens. Il y a un sens à cela, rien n'arrive pour rien. Bien, donc un tonnerre a grondé. Je me demande bien ce qu'était ce tonnerre. Maintenant, lisons un peu. Prenons dans Jean pour commencer. Jean chapitre 12. Gardez la page un instant. Jean chapitre 12. Et commençons au verset 23 de Jean 12. Maintenant, écoutez bien ceci, très attentivement. Et alors, vous n'aurez plus à vous demander ce que c'est. Jésus leur répondit, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. » Vous voyez, là, on se trouve à la fin d'un âge. Son ministère s'achève. Voyez, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Et que dire si l'heure est venue où son épouse doit être enlevée? Qu'en est-il? L'heure est venue où il n'y aura plus de temps. L'ange est prêt à poser un pied sur la terre et l'autre sur la mer, avec un arc-en-ciel au-dessus de lui et les pieds, et à dire « Le temps est écoulé ». Et en plus, il a levé la main et il a juré qu'il n'y aurait plus de temps quand ceci arriverait. Comme c'est parfait, une déclaration faite sous serment à l'Église. L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra. Celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Maintenant, mon âme est troublée. Vous dites, voyons, il arrivait au bout de la route et on était troublé. À quoi est-ce que ça vous fait penser quand il se produit quelque chose de grand dans le spirituel qui vous trouble? Oh là là, eh oui. Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu dans ce monde, jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. La foule disait, qui était là, qui avait entendu, elle disait que c'était un tonnerre. Alors, quand l'agneau a pris le livre et qu'il a brisé ce premier sceau, Dieu, de son trône éternel, a parlé pour dire ce qu'était ce sceau qui allait être révélé. Mais quand il a été présenté à Jean, il était sous forme de symbole. Quand Jean l'a vu, c'était encore un mystère. Pourquoi? Il n'a même pas été révélé à ce moment-là. Il ne peut pas être révélé avant ce qu'il a dit, là, au temps de la fin. Mais c'est venu sous forme de symbole. Alors, le a tonné. Souvenez-vous, le bruit fracassant d'un coup de tonnerre. C'est une voix de Dieu. C'est ce que la Bible dit, vous voyez, un coup de tonnerre. Ils ont pensé que c'était un tonnerre, mais c'était Dieu. Lui, il l'a compris, car cela lui a été révélé. Voyez, c'était un tonnerre. Et remarquez, le premier sceau s'est ouvert. Le premier sceau, quand il a été ouvert sous forme de symbole, il a tonné. Alors, qu'en est-il quand il est ouvert sous sa forme réelle? Il a tonné aussitôt que l'agneau a arraché le sceau. Et qu'est-ce que celui-ci a révélé? Il ne s'est pas révélé complètement. D'abord, il est en Dieu. Ensuite, il est sous forme de symbole. Et puis, il est révélé. Trois choses. Voyez, il est en train d'être à portée du trône. Pour commencer, cela ne peut être ni vu, ni entendu, ni rien. C'est scellé. Le sang de l'agneau a payé le prix. Il a tonné quand il l'a prononcé. Et quand il l'a fait, un cavalier est sorti sur un cheval blanc. Mais là encore, c'était un symbole. Maintenant, regardez bien. Il a dit que ce serait divulgué au dernier jour. Mais quand il sort, c'est sous forme de symbole d'église. Est-ce que vous comprenez, église? Ça sort sous forme d'un symbole d'église. C'est-à-dire qu'ils savent qu'il y a un sceau. Mais ce qu'il en est au juste, ça, ils ne le savent pas encore. Parce qu'il s'agit d'un cavalier sur un cheval blanc. Et ce n'est qu'au dernier jour que cela doit être révélé. Quand le sceau lui-même est brisé. Brisé pour qui? Pas pour Christ, mais pour l'Église. Remarquez, là, oh là là, Jean tremble. J'espère que l'Église comprend vraiment ce que je veux dire, vous, ici. Je vais vous appeler l'épouse, vous voyez, que vous le comprendrez. La voix est un tonnerre. La voix est sortie d'où? Du trône que l'agneau venait de quitter en tant qu'intercesseur. Maintenant, il se tient là pour prendre sa position et faire valoir ses droits. Mais le tonnerre est sorti de l'intérieur du trône. C'est de là qu'il a retenti. Et l'agneau se tenait ici, au dehors. Le tonnerre de l'endroit que l'agneau avait quitté. Il avait quitté le trône du Père pour aller prendre son propre trône. Gloire! Maintenant, ne le manquez pas, mes amis. En tant que chrétiens, nous savons tous que Dieu a juré à David qu'il susciterait Christ pour le faire asseoir sur son trône et qu'il lui donnerait un royaume sans fin ici sur la terre. Il l'a fait. Et Jésus a dit, « Celui qui vaincra l'Antichrist et toutes les choses du monde s'assoira avec moi sur mon trône, comme j'ai vaincu et me suis assis sur le trône de mon Père. Voyez ? Or, il y a un jour où il se lève du trône du Père pour aller prendre son propre trône. Maintenant, il s'avance pour appeler ses sujets. Comment va-t-il faire pour les réclamer ? Il a déjà le livre de la rédemption dans sa main. Gloire ! Oh, j'ai envie de chanter un cantique. L'agneau prendra son épouse pour qu'elle soit à ses côtés. L'armée céleste sera là pour regarder ça. Viens au repas. Ce sera un glorieux jour. Tous les saints vêtus de blanc, avec Jésus, festoieront éternellement. Oh là là, on parle d'être assis maintenant dans les lieux célestes. Qu'est-ce que ça va être? Si nous pouvons nous sentir comme ça, ici-bas, sur cette terre, avant l'enlèvement, dans l'état où nous sommes en ce moment, et que nous pouvons nous réjouir et nous tenir debout contre les murs et dehors, sous la pluie, simplement pour écouter ceci. Qu'est-ce que ça va être quand nous le verrons, lui, assis là? Oh là là! Oh, ce sera un moment glorieux. Il a quitté le trône du Père. Il s'est avancé pour son fils, pour être le... Il est le fils de David. C'est ce qu'Israël pensait qu'il ferait à l'époque. Vous vous souvenez de la femme syrophénicienne qui disait « Oh toi, fils de David !» Vous vous souvenez de l'aveugle Bartimée « Oh toi, fils de David !» Oui, Jésus, lui, il savait ce qu'était le plan, mais eux, ils ne le savaient pas. Ils ont essayé de le forcer à prendre le trône, jusqu'à Pilate qui lui a posé la question. Mais il a dit, « Si mon royaume était de ce monde, mes sujets auraient combattu pour moi. Mon royaume est en haut. » Mais il a dit, « Quand vous priez, priez comme ceci, que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite sur cette terre comme au ciel. » Amen. Oui, oh, comme tout cela est glorieux. Il a quitté le trône du Père pour prendre son propre trône. Maintenant, il a cessé son œuvre d'intercession. Il s'est avancé pour réclamer son propre trône, ses sujets rachetés. C'est pour faire cela qu'il s'est avancé du trône. C'est là que l'être semblable à un lion a dit à Jean, « Viens voir !» Regardez bien, est-ce que vous le lisez? Un des sept sceaux est il, l'un des quatre êtres vivants qui disait, est comme d'une voix de tonnerre. Vous savez ce qu'étaient les êtres vivants. Nous les avons étudiés. Un semblable à un lion, un semblable à un veau, et un semblable à un homme, et un semblable à un aigle. Maintenant, ce premier être vivant a dit, remarquez, il y a chaque fois un être vivant différent. Jusqu'à ce que les quatre cavaliers soient passés. Il y a quatre êtres vivants et il y a quatre cavaliers. Remarquez, chacun de ces êtres vivants fait une annonce. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Nous allons y revenir et prouver lequel était Matthieu, Marc, lequel était Marc, lequel était Jean, chacun à mesure qu'il passait. L'un des êtres vivants qui disait « Viens, vois !» Il a entendu un bruit de tonnerre. Et l'un des êtres vivants a dit « Maintenant, viens voir. » Autrement dit, bon, ici, il y a l'agneau, et Jean est là-bas, qui regarde ce qui est en train de se passer. L'agneau est venu du trône, il était comme immolé, il était couvert de sang. C'est lui qui avait été trouvé digne, et quand il a tendu la main et qu'il a pris le livre, c'est là que les acclamations, les cris, l'hystérie ont fusé de toutes parts, vous voyez? Parce qu'ils ont compris que le prix de la rédemption avait été payé. Maintenant, il vient réclamer les siens. Alors, il prend le livre. Il se tient là devant Jean. Il tire et il brise le sceau. Il ouvre le sceau. Et quand il ouvre le sceau, un coup de tonnerre retentit d'un bout à l'autre de l'endroit. Et quand le coup de tonnerre a retenti, sans doute que Jean a dû sursauter quand le tonnerre a grondé. Et alors, l'un des quatre êtres vivants a dit, « Maintenant, viens voir ce que c'est, ce qui est révélé là-dessous. » Oh là là, Jean, écris ce que tu as vu. Alors Jean s'avance pour regarder, voir ce que c'était. Jean s'avance pour voir ce que le tonnerre a dit. C'est là que cet être a dit à Jean, « Viens voir ce qu'est le mystère sous le premier sceau. » Le tonnerre, la voix du Créateur l'a prononcé. Alors, il devrait bien savoir ce qu'il y a là. Voyez, oh là là. Mais pensez-y, là, il a écrit ceci. Mais quand il a commencé à écrire, ses autres sept tonnerres, il a dit, ne l'écris pas. Il avait été chargé d'écrire tout ce qu'il voyait. Mais quand ces sept tonnerres d'Apocalypse 10, là, ont fait entendre leur voix, il a dit, ne les écris pas du tout. Ce sont des mystères. Nous ne savons pas encore ce qu'ils sont. Mais d'après moi, ils ne vont pas tarder à être révélés. Et à ce moment-là, c'est ce qui va donner la foi nécessaire pour obtenir la grâce qui enlèvera cette Église pour qu'elle parte d'ici. Voyez, nous avons tout traversé pour autant que nous sachions toutes les dispensations. Nous avons tout examiné. Nous avons vu les mystères de Dieu. Nous avons vu poindre le grand rassemblement de l'épouse dans les derniers jours. Mais pourtant, il y a quelque chose là-dedans dont nous ne pouvons pas recevoir la lumière. Il y a autre chose. Mais j'imagine que quand ces mystères commencent à percer, Dieu a dit, retiens-le pour le moment, attends un peu, je vais le révéler en ce jour-là. Ne l'écris pas du tout, Jean, parce qu'il s'achopperait à cela. Laisse faire, tu vois. Mais je vais le révéler en ce jour-là, quand il y aura lieu de le faire. Ils ne se sont pas fait entendre pour rien. Rappelez-vous, c'est comme la petite goutte d'encre. Tout a sa raison d'être. Il y a une raison à tout. Mais remarquez, le Créateur s'est fait entendre et il a entendu cette voix et il est allé voir. Mais maintenant, l'agneau montre à Jean, sous forme de symbole d'un écrit pour l'Église, comme pour que l'Église sache quoi écrire, c'est ce qu'il lui montre. Il dit, maintenant, ne dis pas ceci, exactement ce qu'il en est. Maintenant, Jean ne va pas dire, voici exactement ce qu'il en est, ce qu'il y a sous ce septième sceau. Ne va pas dire ça. En effet, si je dis ça à Jean, alors d'un bout à l'autre de l'âge, le plan tout entier sera perturbé. C'est un secret. Voyez, il veut simplement sa venue. Il a dit là, et personne ne saura quand je viens. Je viens, c'est tout. Voyez, voilà tout. Ce n'est pas mon affaire de savoir quand. Je vais me tenir prêt, c'est tout. Vous voyez? Alors il a dit, donc Jean s'est avancé. Il s'est dit, maintenant je vais le voir. Et Jean, qu'est-ce qu'il a fait quand il s'est avancé? Qu'est-ce qu'il doit faire? Maintenant, il doit l'écrire à l'âge de l'Église. C'est ce qu'il est censé faire, l'écrire aux âges de l'Église. Écris ce que tu vois en rapport avec ces sept chandeliers d'or du début. Écris à cette Église, dis-leur. Bien, et un tonnerre a retenti. Jean savait que c'était la voix de Dieu. Et alors, l'être semblable à un lion a dit, « Viens voir ce que c'était !» Donc, Jean s'est avancé avec sa plume pour écrire ce qu'il allait voir. Or, il n'a pas vu exactement ce que c'était. Il ne l'a pas compris. Mais ce qu'il a vu, c'est ce que Dieu envoyait à l'Église pour un temps. Maintenant, il le fera. Il le fait toujours. Il l'éclaircit quand il est temps de l'éclaircir. Mais il ne l'a pas éclairci à ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'il allait tenir la chose secrète jusqu'au dernier âge. Alors la proclamation du message du dernier ange allait rassembler tous ces mystères. Voyez, il ne l'a pas éclairci, mais Jean, tout ce qu'il a vu, il a vu un cheval blanc qui sortait, monté par un cavalier. Donc, c'est ce qu'il a écrit, vous voyez, à ce moment-là. C'est ce qu'il avait dit, viens voir. Alors Jean est allé voir ce qu'il pourrait voir, pour l'écrire à l'Église. Et à ce moment-là, il a vu un cheval blanc, et celui qui le montait avait un arc, et il est parti en vainqueur et pour vaincre. Et une couronne lui a été donnée. Et donc, c'est tout ce que Jean a vu. Alors, il a simplement écrit tout cela. Là, vous voyez, c'est sous forme de symbole. C'est comme ça que l'Église l'a reçu. Mais avec la promesse qu'au dernier jour, il le révélerait, qu'il montrerait ce que c'est. Que Dieu nous aide à comprendre. Les âges de l'Église, mais ce n'est pas pleinement divulgué avant le septième message de ce dernier âge de l'Église. Remarquez, il commence ce messager du septième âge de l'Église, si vous remarquez, il ne commence pas une dénomination comme les autres l'avaient fait. Souvenez-vous, s'il ne commence pas, non, si vous voulez savoir, il est contre. Est-ce qu'Élie était contre? Bien sûr que oui. Est-ce que Jean était contre, lui qui avait l'esprit d'Élie? Quel genre d'esprit reposait sur Élie? On ne sait pas grand-chose de lui. Il n'était qu'un homme, mais il était prophète. Il était haï. Oh là là! Et à quelle époque a-t-il paru? À l'époque même de la popularité d'Israël, quand ils étaient tous tombés dans la mondanité. Il a apporté cela, et c'était un misogyne. Eh oui, monsieur, certainement. Et il aimait le désert. C'était sa nature. Alors les gens auraient dû savoir quand cet homme est arrivé là, avec ce même esprit sur lui. Ce Jean, quand il est arrivé, il n'était pas tout endimanché comme les célébrités, comme je le disais hier soir. Ceux-là, ils embrassent les bébés, ils font des mariages et des enterrements, et ainsi de suite. Mais quand cet homme est arrivé, c'était un homme du désert. Qu'est-ce qu'il était? Quelqu'un qui aimait le désert. Autre chose encore, il détestait les dénominations. Il a dit, « Maintenant, ne vous mettez pas à dire, nous sommes membres de ceci ou de cela, car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. » Ce n'était pas un faiseur de compromis. Il ne pouvait pas. Il a dit, « Êtes-vous allé voir un roseau agité par le vent ?» Pas Jean, non monsieur. Qu'est-ce qu'il a fait aussi? Exactement comme Élie avait repris Jézabel. Lui, il a repris Hérodias. Il est allé voir Hérode et lui a dit en face, il ne t'est pas permis de la voir. Elle lui a tranché la tête à cause de ça. Voyez? Elle avait essayé de se débarrasser d'Élisée. Le même esprit qui était en Jézabel était dans cette femme-là. Et il y a la même chose dans l'église Jézabel d'aujourd'hui. La même chose. Maintenant, remarquez-le. Quelle grande leçon nous avons là. Et donc, il semble que les gens auraient dû savoir. Quand Jean s'est mis à les réprimander, qu'il s'est tenu là, il semble que ces gens auraient dû savoir que c'était cet esprit d'Élisée. Ils auraient dû le comprendre. C'est ce qu'il était. Bon, et nous voyons là, et nous avons vu d'un bout à l'autre des âges de l'Église, que selon les Écritures, il nous est promis le retour de cet esprit, juste avant le temps de la fin. Est-ce vrai? Bon, et remarquez bien sa nature. Maintenant, il ne commencera pas un autre âge de l'Église, comme Luther, Wesley et tous les autres l'ont fait. Il ne commencera pas une autre Église, parce qu'il n'y a pas d'autre âge de l'Église à commencer. Voyez, il n'y en aura plus. Alors, il doit être contre cela, parce qu'il aura exactement le même esprit qu'eux, à l'époque, le même esprit. Comme je l'ai dit hier, il a plu à Dieu de l'utiliser à 3 reprises. C'est son nombre, 3, pas 2, 3. Il l'a déjà utilisé 2 fois. Maintenant, il va l'utiliser de nouveau. Il l'a dit, il l'a promis. Maintenant, remarquez là, quand il l'a fait, il ne commencera pas de dénomination. Parce que l'âge de l'église de Laodicée, c'est le dernier âge. Et le messager, ce 7e ange, qui est le 7e messager, celui du 7e âge de l'Église, il est celui qui va révéler par le Saint-Esprit toutes ces choses mystérieuses. Ce qui va, combien étaient ici hier soir? Levez la main. Je pense que je n'aurai pas besoin de le relire alors. Vous savez exactement où ça se trouve, au chapitre 10. Vous voyez? Bien. Bien. Les réformateurs venaient réformer le dernier âge de l'Église déchue, celui qui les avait précédés. Ensuite, après que les réformateurs étaient venus réformer l'âge de l'Église, le ramener de l'endroit où il était, alors qu'il était retourné dans le monde, voilà qu'ensuite il commence un nouvel âge de l'Église. Ils l'ont toujours fait, toujours. Or ça, nous l'avons vu. Vous voyez, autrement dit, il y avait eu ici un âge de l'Église catholique, de l'Église catholique romaine. Alors Luther arrive, un réformateur. Il est appelé un réformateur. Et qu'est-ce qu'il fait? Il commence tout de suite à attaquer, sans relâche. Et à ce moment-là, il proteste contre l'Église. Et bientôt, qu'est-ce qu'il fait? Il bâtit la chose même dont il était venu les faire sortir, une autre Église. Alors, ils ont un autre âge de l'Église. Et puis, bientôt, voilà que l'âge de l'Église est dans un état si lamentable. Alors John Wesley arrive, un autre réformateur. Vous voyez? Il bâtit un autre âge de l'Église. Vous saisissez ce que je veux dire? Un autre âge de l'Église est bâti. Ce sont tous des réformateurs. Remarquez, ce dernier message du dernier âge de l'Église, ce n'est pas un réformateur, c'est un prophète, pas un réformateur. Montrez-moi où un prophète a déjà commencé un âge de l'Église. Ce n'est pas un réformateur. C'est un prophète. Les autres, c'était des réformateurs, mais ils n'étaient pas prophètes. S'ils l'avaient été, la parole du Seigneur vient aux prophètes. C'est pour cette raison qu'ils ont continué à baptiser en utilisant Père, Fils et Saint-Esprit, et toutes ces choses-là. C'est qu'ils étaient des réformateurs et non pas des prophètes. Mais c'était quand même de grands hommes de Dieu qui ont vu le besoin de l'époque dans laquelle ils vivaient. Et Dieu les a oints. Ils ont été envoyés là, et ils ont attaqué violemment ces choses. Mais la pleine parole de Dieu n'est jamais venue à eux, parce qu'ils n'étaient pas des prophètes, ils étaient des réformateurs. Mais dans les derniers jours, il faudra nécessairement un prophète pour prendre les mystères de Dieu et rétablir cela, parce que les mystères n'ont été connus que par les prophètes. Alors cet homme doit nécessairement venir. Maintenant, vous voyez ce que je veux dire? Ça ne peut pas être un réformateur. Il faut que ce soit un prophète, parce qu'il faut que ce soit quelqu'un qui ait ce don, qui soit là et qui saisisse la parole. Or, ces réformateurs, ils savaient qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Luther le savait, que le pain n'était pas le corps de Christ. Et alors, il a prêché « Le juste vivra par la foi ». Et c'était son message. Et quand John Wesley est arrivé, il a vu qu'il y avait la sanctification. Alors, il a prêché la sanctification. C'était son message. Voyez, les pentecôtistes ont apporté le message du Saint-Esprit, et ainsi de suite. Mais dans les derniers jours, dans ce dernier âge, le messager ne doit pas commencer une réforme, mais il doit prendre tous les mystères que ces réformateurs ont laissés, les rassembler et les résoudre pour les gens. Je vais le relire. Je trouve cela tellement beau. J'aime le lire. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête, l'arc-en-ciel, et son visage était le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Bon, nous avons vu la même chose, et c'était Christ, et nous savons que Christ est toujours le messager pour l'Église. Très bien, il est appelé la colonne de feu, l'ange de l'Alliance, et ainsi de suite. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Donc, ici, les sceaux avaient déjà été brisés. Nous sommes en train de les briser en ce moment, mais ici, la chose est ouverte. Il posa son pied droit sur la mer et son gauche sur la terre. Il cria une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les sept tonnerres firent entendre leur voix. Oh là là, au complet. Et quand les sept tonnerres eurent fait entendre leur voix, moi, Jean, j'allais écrire. Écrire quoi? Ce qu'ils avaient dit. Et j'entendis du ciel une voix, Dieu, qui disait, scelle ce qu'ont dit les sept tonnerres et ne l'écris pas. Ne l'écris pas, voyez. Et l'ange que je voyais debout sur la mer leva les mains vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé les cieux et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, là, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps. Regardez bien, retenez bien ceci maintenant, alors que nous continuons. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, ce dernier ange, ange terrestre, cet ange-ci, il était descendu du ciel. Ce n'était pas lui. Lui, il était descendu du ciel. Mais là, il parle de la voix du septième ange, qui est un ange, ça veut dire un messager. Tout le monde sait cela. Et le messager pour l'âge de l'Église. Au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère, les sept sceaux, tous, tout le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Le mystère tout entier est dévoilé. C'est le ministère de cet ange-là. Voyez, ce sera tellement simple que les gens vont passer complètement à côté. Mais pourtant, ce sera parfaitement confirmé. Ce sera dévoilé d'une façon absolument parfaite. Voyez, tous ceux qui voudront le voir, le verront. Voyez, c'est vrai. Mais ce, Jésus a dit, comme il l'a dit quand il est venu, il a dit, « Vous avez des yeux et vous ne voyez pas. » Ésaïe l'a dit, voyez, « Et vous avez des oreilles et vous n'entendez pas. » Alors, nous voyons que... J'ai eu peur. J'ai regardé l'horloge là-bas et j'ai cru qu'il était 22 heures. Mais il est, il n'est même pas encore 21 heures. Vous voyez? Très bien. Oh là là. Allons-y maintenant. Remarquez, j'aime ça. Les autres, c'étaient des réformateurs. Mais comme c'était de grands hommes de Dieu, ils ont vu le besoin de leur époque et ont amené une réforme. Mais Apocalypse 10 dit que son message, c'était de révéler, pas de réformer, de révéler les secrets, de révéler des secrets. C'est la parole dans l'homme. Hébreux 4 dit que la parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. pénétrante jusqu'à l'os. Elle révèle les secrets du cœur. Voyez, cet homme-là n'est pas un réformateur, c'est un révélateur. Un révélateur de quoi? Des mystères de Dieu. Alors que les églises avaient complètement brouillé cela et tout, il doit venir avec la parole de Dieu révéler toute la chose. En effet, il doit ramener la foi des enfants au Père. La foi biblique originelle doit être rétablie par le septième ange. Bien, oh, j'aime vraiment ça. Tous les mystères des sceaux que les réformateurs n'ont jamais pleinement compris. Voyez, bon, regardez Malachie 4 un petit instant. Prenez-le donc simplement en note. Il est un prophète et il rétablit la foi originelle des pères. Maintenant, nous nous attendons à ce que cette personne entre en scène. Il sera tellement humble qu'il y en aura 10 millions de fois 10 millions qui... Enfin, disons qu'il y aura un petit groupe qui comprendra. Quand, vous vous souvenez l'autre jour, quand Jean devait venir, prophétiser comme messager avant la venue de Christ, la voix de celui qui crie dans le désert. Malachie l'avait vu. Regardez, le chapitre 3 de Malachie, c'est la venue de l'Élie qui devait venir comme précurseur de la venue de Christ. Vous dites, « Oh non, non, frère Branham, ça c'est le chapitre 4. » Ah, mais pardon, Jésus a dit que c'était le chapitre 3. Maintenant, prenez l'évangile de... Prenez donc Matthieu au chapitre 11 et au verset 6. Il va nous le dire. Au chapitre 11, et je pense que c'est le verset 6, 4, 5 ou 6, quelque part par là. Il a dit, si vous pouvez le comprendre, il parlait de Jean là. C'est celui dont il a été dit, j'enverrai mon messager devant ma face. Maintenant, lisez Malachie 3. Il y en a qui essaient d'appliquer cela à Malachie 4. Non, monsieur, ce n'est pas ça. Remarquez, Malachie 4, aussitôt que ce messager-là va de l'avant, le monde est complètement brûlé et les justes entrent dans le millénium en marchant sur leurs cendres. Donc voyez-vous, si vous l'appliquez à lui, là-bas, alors la Bible aurait dit quelque chose de faux. 2000 ans ont déjà passé sans que le monde ait été brûlé et que les justes y vivent. Il faut donc que ce soit dans l'avenir. Oh là là! Si vous prenez l'Apocalypse ici pour voir ce que ce messager, à la fin de cet âge-ci, est censé faire, alors vous comprendrez de quoi il s'agit. Il faut qu'il soit prophète. Il doit saisir ces points en suspens que ces réformateurs n'avaient pas vus et situer tout cela. Comment peut-on confronter Matthieu 28-19 avec Actes 2-38 sans la révélation spirituelle de Dieu? Comment ces gens peuvent-ils dire que les jours des miracles sont passés? Et ainsi de suite, comme ça, et... Sans la révélation de Dieu, c'est le seul moyen pour eux de savoir si c'est vrai ou faux, voyez? Mais eux, ils sortent des séminaires. J'espère que nous aurons le temps de voir cela. Je veux me dépêcher, parce que je ne voudrais pas vous garder ici plus d'une semaine. Vous savez ce que je veux dire. Pour ceci, pour ouvrir les sceaux. Et j'aimerais réserver un jour pour prier pour les malades ce jour-là, si possible. Donc, regardez, Malachie 4, c'est un prophète. Et il rétablit la foi originelle des pères. Au temps de la fin, quand la période de la tribulation arrive. Bon, voici une petite chose sur laquelle nous allons revenir un instant. Les 3 ans et demi, ou les 70 semaines de Daniel, la dernière moitié des 70 semaines de Daniel, c'est-à-dire 3 ans et demi. Bon, nous, combien se souviennent de ça dans les âges de l'Église? Voyez, 70 semaines ont été fixées. Voyez comme c'était parfait. Il était dit, le Messie viendra et, au milieu de la semaine, il sera retranché pour être un sacrifice et l'obligation cessera. Alors, il y a encore 3 ans et demi en réserve pour que la doctrine du Messie soit apportée aux Juifs. Et Dieu ne traite pas en même temps avec les Juifs et avec les gentils. Il traite avec Israël en tant que nation, avec les gentils en tant qu'individu. Ce ne sont pas les gentils qu'il a pris pour épouse. Il a pris un peuple parmi les gentils. Voyez ? Donc, il traite avec Israël en tant que nation. Et elle est déjà là-bas, en ce moment même, en tant que nation. J'ai reçu une lettre de Paul aujourd'hui, de Paul Boyd. Et il me disait, « Frère Branham, comme c'est vrai, les Juifs, encore aujourd'hui, ils éprouvent un drôle de sentiment vis-à-vis de ceux des nations, peu importe ce qui a pu se passer. Bien sûr, cela va de soi, c'est dans l'ordre des choses. » Alors Martin Luther a fait la proclamation que tous les Juifs devraient être chassés et leurs propriétés brûlées, parce que c'était des antichrists. Voyez, Martin Luther lui-même a fait cette déclaration dans ses écrits. Or, Hitler n'a fait qu'accomplir ce que Martin Luther avait dit. Pourquoi Martin Luther a-t-il dit ça? Parce que c'était un réformateur et non pas un prophète. Dieu qui, mon prophète, a béni Israël, il a dit, quiconque te bénira sera béni et quiconque te maudira sera maudit. Comment un prophète peut-il se tenir là et nier ce que l'autre prophète a dit? Il ne le peut pas. Tout doit s'harmoniser, vous voyez? Mais c'est pour cette raison qu'on classe. Voyez-vous, en fait, l'Allemagne est censée être une nation chrétienne. Et la façon dont ils ont traité Israël, ils en ont encore gros sur le cœur. Et on ne peut pas les blâmer. Mais souvenez-vous, les Juifs assis ici, ne vous en faites pas. Le jour vient, Dieu ne pourra jamais les oublier. Ils ont été aveuglés à cause de nous. Vous savez, il a dit au prophète, le prophète s'est écrié, il a dit, « Oublieras-tu Israël ?» Il a dit, « Prends ce bâton à mesurer. Quelle est la hauteur du ciel? Quelle est la profondeur de la mer ?» Il a dit, « Je ne peux pas mesurer ça. » Il a dit, « Jamais je ne pourrai oublier Israël. C'est son peuple, ses serviteurs. Quant à ceux des nations, il n'y en a qu'un petit nombre d'entre eux qui sont choisis pour former son épouse. C'est tout à fait vrai. C'est l'épouse. Donc, les 70 semaines ont été fixées parfaitement, comme Daniel a dit que le Messie viendrait et qu'il serait retranché au milieu de la semaine. Et Jésus a prophétisé pendant 3 ans et demi. Maintenant, au milieu, ces 3 ans et demi de Daniel, au milieu, il a été retranché. Mais maintenant, la dernière partie, c'est la période de la tribulation, où se trouve l'Église des nations. Oh, c'est glorieux! Maintenant, l'épouse rentre avec l'époux. Ensuite, après le millénium, elle sort en marchant sur les cendres des méchants. Je vais vous montrer quelque chose ici, pendant que nous avons cela à l'esprit. Je vais vous montrer ce qui est dit, ce que la Bible dit. Et nous ne pouvons pas nier que c'est la parole de Dieu. Si nous le faisons, alors nous sommes des infidèles. Vous voyez, nous devons la croire. Vous dites, je ne la comprends pas, moi non plus. Seulement, je m'attends à lui pour qu'il la révèle. Regardez. Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains, comme les Américains, ainsi de suite, tous les méchants seront comme du chaume. Ça va brûler. Le jour qui vient, je les embraserai, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racines, ni rameaux. Alors, comment peut-on voir un enfer éternel là-dedans? Voyez-vous, ce sont les derniers jours, alors que ces choses sont révélées. Nulle part dans la Bible, il n'est dit que l'enfer est éternel. Ainsi, pour aller dans un enfer éternel, il vous faudrait avoir la vie éternelle pour y rester. Il n'y a qu'une forme de vie éternelle, et c'est pour elle que nous combattons. Tout ce qui a eu un commencement a une fin. L'enfer a été créé pour le diable et pour ses anges, et il sera consumé et supprimé. C'est vrai, voyez. Mais quand ceci a lieu, ça ne leur laisse ni racines ni rameaux. Mais pour ceux qui craignent mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sauterez comme les veaux d'une étable, et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds. En ce jour que je prépare, dit l'Éternel des armées, où seront les méchants, après la tribulation, des cendres. Souvenez-vous des lois de Moïse, auxquelles j'ai prescrit en Horeb, pour tout Israël, des préceptes et ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que ce jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Amen. Voici l'Ancien Testament qui se termine comme ça, et voilà le Nouveau Testament qui se termine par la même chose exactement. Comment allez-vous l'empêcher? Vous ne pouvez pas. Regardez, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que ce jour-là arrive. Il ramènera les cœurs des pères à leurs enfants et les cœurs des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Ah, voilà, c'est la parole du Seigneur. Il l'a promis. Ça doit arriver. Et maintenant, si vous remarquez la façon dont cela se passe, la façon dont Dieu fait cela, c'est vraiment beau. L'époux sort, et avec l'époux, et après, les méchants sont brûlés dans un feu qui ne s'éteint pas. Et après que le monde aura été purifié, il se reproduira. Tout doit passer par là, passer par une étape de purification. Les volcans seront en éruption dans ce dernier grand moment, et le monde éclatera, il vomira du feu, et il se retirera. Et tous ces bourbiers du péché, et tout ce qui est sur la terre sera fondu et réduit à rien. Ça brûlera avec une chaleur si intense que ce sera comme ce décolorant qui renvoie la couleur de l'encre à sa création originelle. De même, le feu de Dieu sera si ardent qu'il ramènera toutes choses souillées à son état premier, quand Satan et tout péché seront consumés et tout. Et ensuite, elle reparaîtra aussi belle qu'elle l'était dans le jardin d'Éden. C'est vrai. Oh, cette heure glorieuse qui est juste là devant nous, pendant la période de la tribulation. Voici ce que je veux que vous remarquiez maintenant. Une petite chose que j'ai relevée en passant. Pendant cette période de la tribulation, après que l'épouse aura reçu l'appel du départ, pendant que l'Église passe par la période de la tribulation, les 144 000 sont appelés par les deux témoins d'Apocalypse 11. Maintenant, regardez, ils vont prophétiser, revêtus de sacs, pendant 1260 jours. Maintenant, nous savons que notre calendrier romain indique qu'on a 28 jours et parfois 30 et 31, mais le calendrier, le vrai, il indique 30 jours par mois, c'est vrai. Alors, prenez 100, 1260 jours et divisez cela par 30 et voyez ce que ça vous donne. Très exactement 3 ans et demi. Ça, c'est le temps assigné pour que le message du Messie soit prêché à Israël, comme il a été à l'époque. Quand il revient et qu'il se fait connaître sous forme de symbole, comme quand il est venu, quand Joseph a été emmené dans ce pays, qu'il avait été rejeté par ses frères parce qu'il était un homme spirituel. Il pouvait avoir des visions et interpréter des songes. Et à cause de ça, il a été emmené dans ce pays. Il a été vendu pour presque 30 pièces d'argent. Il représentait très précisément Christ, parce que c'était l'esprit de Christ qui était en lui. Remarquez ce qui s'est passé ensuite. Et remarquez qu'à ce moment-là, il était emprisonné et qu'un homme a été sauvé et l'autre perdu. Exactement comme Jésus, quand il a été emprisonné sur la croix, un brigand a été sauvé et l'autre a été perdu. Exactement. Il a été jeté dans une fosse. On le pensait mort, mais il a été élevé jusqu'à la droite de Pharaon, en sorte que personne ne pouvait voir Pharaon sans d'abord voir Joseph. Jésus est assis à la droite de Dieu, et personne ne peut venir au Père si ce n'est par le Fils. C'est vrai. Et remarquez, chaque fois que Joseph partait, quand Joseph se levait de la droite de ce trône, regardez bien, gloire, Joseph était assis là, à la droite de Pharaon. Et quand Joseph se levait pour quitter le trône, la trompette sonnait. Fléchissez le genou, tout le monde, Joseph arrive. Quand cet agneau quittera le trône là-bas, des jours de son œuvre de médiation, quand il quittera le trône là-haut, qu'il prendra le livre de la rédemption et qu'il s'avancera, tout genou fléchira. Le voilà. Remarquez, et Joseph, après avoir été rejeté par ses frères, il lui a été donné une épouse des nations. Potiphar lui a donné, ou Pharaon lui a donné une épouse des nations. Et il a engendré des enfants des nations, moitié gentils, moitié juifs. Ils ont fourni un grand symbole. Quand Jacob les a bénis, avec Éphraïm d'un côté et Manassé de l'autre, il a croisé les mains et il a donné la bénédiction aux plus jeunes. Et les deux enfants ont été ajoutés aux 12 tribus. À l'époque, il n'y en avait que 10. Et il les a bénis en Jacob lui-même. Et Joseph, son fils prophète, qui se tenait là, il a dit, « Père, tu t'es trompé. » Il a dit, « Tu as mis la bénédiction de ta main droite sur le jeune enfant, alors qu'elle aurait dû aller à l'aîné. » Et il a dit, « Je sais que j'ai les mains croisées, mais c'est Dieu qui les a croisées. » Pourquoi Israël, qui avait le droit d'être une épouse, a rejeté et vendu son droit d'aînesse. Et c'est passé de l'ancien fils, Israël, au nouveau, les nations. Et par la croix, les bénédictions sont passées de là aux nations. Mais remarquez, suite à cela, vous voyez, par cela quand tout, il avait pris son épouse. Mais quand ces garçons sont descendus acheter de la nourriture. Oh, c'est une si belle image. Je m'écarte du sceau. Mais il faut que je le dise, vous voyez, parce que je crois que vous aurez alors une meilleure vue d'ensemble. Remarquez, alors, quand ils sont descendus acheter de la nourriture, vous savez, Joseph les a tout de suite reconnus. Et Joseph était le fils de la prospérité. Partout où il allait, tout lui réussissait. Attendez donc qu'il revienne sur la terre. Attendez que notre Joseph arrive. Voyez, le désert fleurira comme une rose. Et le soleil de la justice se lèvera avec la guérison sous ses ailes. Oh là là! Tous les cactus de l'Arizona vont s'épanouir en de beaux arbres. Et ce sera magnifique. Remarquez, le voilà qui arrive. Et il leur joue un petit tour, là. Il les fait venir et il dit, « Mon père vit-il encore ?» Voyez, il voulait savoir si le père de ce garçon était encore vivant. Il a dit, « Oui, il savait que c'était son frère. » Mais avez-vous remarqué, quand il a été sur le point de se révéler à ses frères, il a trouvé le petit Benjamin, qui était né depuis qu'il était parti. Et celui-là représente ces Juifs, ces 144 000, qui sont maintenant en train de se rassembler là-bas depuis qu'il est parti. Et quand il est revenu, il a dit, il a regardé Benjamin, il avait le cœur gros. Et souvenez-vous, ils ne savaient pas qu'il parlait hébreu. Il se servait d'un interprète. Il faisait semblant d'être un Égyptien, voyez. Et alors, au moment d'être divulgué, il désirait se faire connaître. Il n'arrêtait pas de regarder le petit Benjamin. Et rappelez-vous, il avait fait sortir son épouse. Elle était dans le palais quand il s'est fait connaître à ses frères. Et l'épouse des nations, sa femme, après que Jésus était rejeté par son propre peuple, il a pris une épouse des nations. Et il l'emmènera d'ici dans le palais, dans la maison de son père, dans la gloire, pour le souper des noces. Et il redescendra discrètement pour se faire connaître à ses frères, les 144 000. À ce moment-là, le voilà. Et souvenez-vous, regardez le symbole, c'est parfait. Et quand il est revenu à l'endroit où se passaient ces choses, il les regardait. Et il s'est mis à regarder. Et eux se sont mis à parler. Ils ont dit, « Maintenant, Ruben, tu sais qu'on est cuit là, tu vois ? Parce que tu sais ce qu'on a fait. On a fait des ennuis à ce garçon. On n'aurait jamais dû vendre notre frère. » Et c'était leur frère qui se tenait là, ce prince puissant. Et ils ne le savaient pas. C'est pour cette raison qu'Israël ne peut pas le comprendre aujourd'hui. Ce n'est pas encore l'heure de savoir ces choses. Et donc, il pensait qu'il ne comprenait pas l'hébreu. Mais il était là, en train de les écouter. Il disait, « Là, on est cuit. » Et Joseph, qui les regardait, il ne pouvait plus se contenir. Maintenant, souvenez-vous, sa femme et ses enfants étaient dans le palais à ce moment-là. Les saints sont partis, ils ne sont pas présents. Alors, il a dit, « Je suis Joseph, votre frère. » Et il a couru vers le petit Benjamin. Il s'est jeté à son cou et il s'est mis à pleurer. Voyez, et il s'est fait connaître. Et là, ils ont dit, « Maintenant, on sait qu'on est cuit parce qu'on l'a vendu. C'est nous qui l'avons vendu. C'est nous qui avons essayé de le tuer. Maintenant, il va nous tuer. On le sait. » Il a dit, « Non, ne soyez pas fâchés, car si vous l'avez fait, c'est pour sauver des vies. C'est pour ça que Dieu m'a envoyé ici. » Et quand il se fera connaître, la Bible dit, comme nous l'avons vu, quand il se fera connaître à ces 144 000 là-bas, le petit Benjamin d'aujourd'hui, le reste de ces Juifs qui sont restés là-bas, quand il se fera connaître, ils diront, « D'où viennent ces cicatrices que tu as? Comment se fait-il que tu en aies à la main ?» Il dira, « Oh, c'est dans la maison de mes amis que je les ai reçus. » Voyez, oh, c'est là qu'ils vont se rendre compte qu'ils ont tué le Messie. Mais qu'est-ce qu'il dira? La même chose que Joseph avait dit. Vous l'avez fait pour servir à la vie, pour sauver des vies. Ne soyez pas fâchés. En effet, les nations n'auraient pas pu entrer si les Juifs, dans leur aveuglement, n'avaient pas fait ce truc-là. Alors, il a sauvé la vie de l'Église par les choses qu'eux ont faites. Alors, voilà, c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, ils ne peuvent pas comprendre ceci. Ce n'est pas encore l'heure. Pas plus que nous, nous ne pourrions comprendre ces choses avant que le temps ne soit venu de les comprendre. Oh là là, les sept tonnerres de l'Apocalypse, puissent-ils montrer à l'épouse à se préparer pour la grande foi de l'enlèvement. Maintenant, dépêchons-nous, parce qu'il ne nous reste plus que 15 ou 20 minutes. Donc, que signifie ce cheval blanc? Permettez que je lise le... Je me suis tellement éloigné. Excusez-moi d'être sorti de mon sujet, mais je vais relire le verset, les deux versets. « Je regardais quand l'agneau eut ouvert un des seaux, et j'entendis l'un des quatre êtres vivants qui disait, et comme d'une voix de tonnerre, « Viens, vois !» Je regardais, et voici parut un cheval blanc. Nous abordons le verset 2 maintenant. « Un cheval blanc, celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée. Il ne l'avait pas encore. Et il partit en vainqueur et pour vaincre. » Ça s'arrête là. Voilà le sceau. Maintenant, voyons les symboles. Nous avons vu ce que le tonnerre signifie. Parfaitement, ça nous le savons, voyez-vous. Le tonnerre, c'était la voix de Dieu, quand le sceau s'est ouvert. Maintenant, que signifie le cheval blanc? Bon, c'est ici que vient la révélation. Et je suis aussi sûr de ça que d'être ici devant vous. Je sais que c'est la parole. J'ai lu tous les livres que j'ai pu trouver sur le sujet. Et avec, la dernière fois que j'avais essayé d'en parler, simplement pour donner un enseignement là-dessus, il y a une trentaine d'années. J'avais pris le livre, quelqu'un m'avait dit que les adventistes avaient plus de lumière sur la seconde venue du Christ que tous ceux qu'ils connaissaient. Alors je me suis procuré quelques-uns de leurs meilleurs livres pour les lire. Je me suis procuré le livre de Smith sur Daniel, les Révélations, et il disait que ce cheval blanc qui est sorti, il était blond, ce qui symbolisait un conquérant. Et que, pendant cette conquête, beaucoup d'entre vous, les frères adventistes ici, vous connaissez ce livre. Et beaucoup d'entre vous, les autres frères aussi, pour l'avoir lu. Et j'en ai lu d'autres, deux ou trois. J'ai lu, et je ne me rappelle pas, il y a deux autres livres que j'ai lus. Et les deux hommes étaient d'accord pour dire que c'était vrai. C'était d'excellents docteurs, censés être parmi les meilleurs, les mieux renseignés. Alors je me suis dit, eh bien, si je ne sais pas, je vais simplement dire comme eux, essayer de l'enseigner comme ça. Il donnait une très bonne exclamation de ce que ça signifiait réellement. Il disait, bon, il y a ici un cheval blanc, et un cheval blanc, c'est une puissance, un cheval de bataille. Et il disait, et l'homme qui était assis dessus, c'était le cheval blanc, c'était le Saint-Esprit, qui est sorti dans le premier âge et qui a conquis cet âge-là pour le royaume de Dieu. Il avait un arc à la main, ce qui veut dire qu'il était comme Cupidon. Il tirait dans le cœur des gens des flèches d'amour, de l'amour de Dieu, et il conquérait. Bon, ça a l'air bien beau, seulement ce n'est pas la vérité. Non, monsieur, oui, ce n'était pas ça. C'est vrai que le blanc représente la justice. Nous comprenons cela. Le blanc représente la justice. C'est ce que les docteurs ont enseigné, que c'était le Saint-Esprit qui conquérait dans le premier âge. Seulement, ma révélation par le Saint-Esprit est différente. Ma révélation par le Saint-Esprit, la voici. Christ et le Saint-Esprit, c'est une seule et même personne, mais seulement sous une forme différente. Alors ici, il y a Christ, l'agneau. Nous savons qu'il était l'agneau. Il était ici avec les livres dans sa main. Et là, le cavalier au cheval blanc sort, voyez-vous. Donc, ce n'était pas le Saint-Esprit. Or ça, c'est un des mystères des derniers jours. Comment Christ peut être les trois personnes en une? Il ne s'agit pas de trois personnes différentes, Père, Fils et Saint-Esprit, qui seraient trois dieux, comme les trinitaires essayent de nous le faire croire. Il s'agit de trois manifestations de la même personne. Ou on pourrait les appeler trois fonctions. En parlant à des prédicateurs, on n'utiliserait pas fonction, parce que, en effet, je viens de me rappeler qu'on m'enregistre. Alors je vais vous dire. Naturellement, Christ ne pouvait pas dire « Je prierai ma fonction et il vous enverra une autre fonction ». Nous le savons. Mais si vous voulez, pour le rendre, il s'agit de trois attributs du même Dieu. Voyez, il ne s'agit pas de trois dieux, trois attributs du même Dieu. Voyez, par conséquent, comment Christ pourrait-il être là-bas, le cheval blanc en train de vaincre, et être ici avec un livre dans sa main? Ce n'est pas lui, pourtant, ce n'est pas Christ. Maintenant, remarquez, le Saint-Esprit dans la Révélation, et Christ, c'est le Saint-Esprit, c'est Christ sous une autre forme, c'est vrai. Remarquez, c'est l'agneau qui a ouvert les livres, et l'agneau, c'est Christ. Et on ne revoit plus Christ à partir de là, mais on le revoit dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 19, alors qu'il arrive sur un cheval blanc. Si vous aimeriez le lire, prenons Apocalypse 19, 11. C'est, nous allons le lire rapidement là, pendant que nous, on a assez de temps, j'espère. Et comme ça, on va le voir un peu mieux. 19, 11. On va commencer au verset 11 et on va lire jusqu'au verset 16 inclus. Puis je vis le ciel ouvert. Voici parut un cheval blanc, pas sur la terre, dans le ciel, vous voyez. Celui qui le montait s'appelle fidèle, véritable. Il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient des flammes de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Regardez donc ce diadème. Il avait un nom écrit que personne ne connaissait si ce n'est lui-même. Comme je souhaiterais pouvoir m'arrêter là-dessus un petit instant. Oh là là, j'ai bien mon idée là-dessus, mais peut-être que je pourrais si vous... Voyez-vous, personne ne le connaît. Saviez-vous que ce nom, Jéhovah, il n'est pas exact? Tout le monde sait cela. Dr. Vail, vous savez que c'est vrai. Les traducteurs n'ont jamais pu le traduire. Ça s'écrit J-U-H-V. Je veux dire J-V-H-U. Ce n'est pas Jéhovah. Ils n'ont pas pu y toucher. Ils ne savent pas ce que c'est. Ils l'ont appelé Jéhovah, mais ce n'était pas son nom. Regardez, chaque fois qu'une victoire est remportée ou que quelque chose se passe, il y a un nom qui est changé. Considérez l'époque d'Abraham. D'abord, il était Abraham et il n'a jamais pu avoir ce bébé tant que son nom n'a pas été changé en Abraham. Et Sarai, S-A-R-A-I, tréma, elle est restée stérile tant que son nom n'a pas été changé en S-A-R-A. Jacob, ça veut dire supplantateur, trompeur. Et c'est ce qu'il a fait. Il s'est couvert d'une peau de mouton et il a trompé son père, le prophète, pour s'emparer des droits d'aînesse. Il a mis des branches de peuplier dans leur eau pour qu'elles soient tachetées. Il a effarouché les bêtes alors qu'elles portaient leurs petits pour que ça donne des bêtes et des brebis tachetées. Il n'était qu'un trompeur. Mais une nuit, il s'est emparé de quelque chose de réel. Et il savait que c'était réel. Alors, il s'y est accroché. Il a tenu bon jusqu'à ce qu'il ait vaincu. Et son nom a été changé et il s'est appelé Israël. Ce qui veut dire un prince puissant devant Dieu. Pas vrai? Chaque vainqueur. Simon était pêcheur, mais quand sa foi a trouvé prise et qu'il a su que c'était Jésus, quand il lui a dit qu'il était le Messie, et qu'il lui a dit quel était son nom et quel était le nom de son père, il a été vaincu et il a été changé de Simon en Pierre. Saul, un bon nom. Il y a une fois un roi Saül en Israël, mais Saul, ça ne convenait pas à un apôtre. Ça pouvait peut-être aller pour un roi, mais pas pour un apôtre. Alors Jésus a changé son nom de quoi? De Saul en Paul. Regardez les fils du tonnerre, et ainsi de suite. Et Jésus, son nom sur terre, c'était Rédempteur, Jésus. Quand il était sur la terre, il était le Rédempteur, c'est vrai. Mais une fois qu'il a conquis la mort et le séjour des morts, qu'il les a vaincus et qu'il est monté en haut, il a reçu un nom nouveau. C'est pour cette raison que vous criez comme ils le font et qu'ils ne reçoivent rien. Ce sera révélé dans les tonnerres. Et oui, voyez? Remarquez les mystères. Il vient à cheval. Il faut qu'il y ait quelque chose qui change cette église. Vous le savez, il faut qu'il y ait quelque chose. Remarquez, personne ne le connaissait si ce n'est lui-même. Remarquez là, personne ne le connaissait si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom était la parole de Dieu. Oh là là! Remarquez, les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin, blanc, pur. De sa bouche sort une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Voilà le Messie qui arrive. Le voilà. Pas cet individu qui était sur le cheval, là-bas. Remarquez la différence. Le voici avec le livre dans sa main, ici. L'œuvre de la rédemption est... Il n'avait pas encore pris sa place. Donc, ce n'était pas le Christ qui est sorti, le Saint-Esprit. Ce n'est pas pour contredire ces grands hommes. Non, monsieur, je ne fais pas ça. Je ne voudrais pas faire ça. Seulement, ceci, c'est ma révélation là-dessus. Voyez, si vous le comprenez autrement, bon, c'est bien. Mais ce n'est pas bien pour moi. Voyez-vous, moi, c'est comme ceci que je le crois. Vous voyez, bon, vous savez ce qu'il en est. Voyez. Et remarquez, on ne revoit plus Christ, vous voyez, à partir de ce moment-là. Mais il est bien sur un cheval blanc. Alors, si cet individu monte un cheval blanc, il n'est qu'un imitateur de Christ. Voyez, vous saisissez? Remarquez, le cavalier sur le cheval blanc n'a pas de nom. Il se peut qu'il utilise deux ou trois titres, mais il n'a pas de nom. Mais Christ, lui, il a un nom. Qu'est-ce que c'est? La parole de Dieu. Voilà ce que c'est. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole fait chair. Voyez, le cavalier n'a pas de nom, mais Christ s'appelle la parole de Dieu. C'est ce qu'il est. Il s'appelle comme cela. Or, il a un nom que personne ne connaît, mais il s'appelle la parole de Dieu. Cet individu, lui, il ne s'appelle rien du tout, vous voyez. Seulement, il est sur un cheval blanc. Le cavalier n'a pas de flèche pour son arc. L'aviez-vous remarqué? Il avait un arc, mais on ne dit pas qu'il avait des flèches. Alors, il doit être un bluffeur. C'est vrai. Peut-être qu'il a beaucoup de tonnerre, mais pas d'éclair. Mais il se trouve que Christ avait les deux, l'éclair et le tonnerre. Car de sa bouche sort une épée aiguë à deux tranchants, avec laquelle il frappe les nations. L'autre, il ne peut rien frapper, vous voyez. Il ne fait que jouer le rôle d'un hypocrite. Il s'avance sur un cheval blanc. Il sort pour vaincre. Christ a une épée aiguë. Et regardez bien, elle sort de sa bouche. La parole vivante, c'est-à-dire la parole de Dieu révélée à ses serviteurs. Par exemple, il a dit à Moïse, « Va, tiens-toi là, étends ton bâton là-bas. Fais venir des mouches. » Et il y a eu des mouches, certainement. Tout ce qu'il disait, il le faisait. Et ça s'accomplissait, sa parole vivante. Dieu et sa parole sont une seule et même personne. Dieu est la parole. Mais alors, qui est ce cavalier mystérieux du premier âge de l'Église? Qui est-il? Réfléchissons-y. Qui est ce cavalier mystérieux qui commence sa course au premier âge de l'Église et qui continue jusque dans l'éternité, jusqu'à la fin? Le deuxième sceau émerge et il continue jusqu'à la fin. Le troisième sceau émerge et il continue jusqu'à la fin. Le quatrième, le cinquième, le sixième, le septième, chacun d'eux aboutit ici à la fin. Et au temps de la fin, ces livres qui étaient enroulés pendant tout ce temps, avec les mystères à l'intérieur, ils sont ouverts. Alors les mystères sortent pour qu'on voit ce que c'est. Mais en fait, ils ont commencé au premier âge de l'Église, parce que l'Église, le premier âge de l'Église, a reçu le message comme ceci. Un cavalier sur un cheval blanc sorti. Voyez, qui est-il? Il est puissant par sa puissance conquérante. C'est un grand personnage par sa puissance conquérante. Vous voulez que je vous dise qui c'est? C'est l'Antichrist. C'est exactement ce qu'il est. Bon, en effet, vous voyez, s'il est Antichrist, Jésus a dit que les deux seraient tellement proches que ça séduirait même les élus. L'épouse, si c'était possible. Antichrist, c'est l'esprit de l'Antichrist. Vous vous souvenez, dans les âges de l'Église, quand nous avons ouvert le premier âge de l'Église, là, nous avons vu que le Saint-Esprit était contre une certaine chose qui avait commencé dans cet âge de l'Église-là et qui portait le nom des œuvres des Nicolaïtes. Vous vous en souvenez? Nikao, ça veut dire conquérir. Laïsme, ça veut dire l'Église, les laïcs. Nicolaïsme, conquérir les laïcs. Ôter le Saint-Esprit de l'Église pour remettre tout cela à un seul homme saint. Le laisser lui être le chef de tout. C'est du déjà vu pour vous. Voyez, le nicolaïsme. Remarquez, le nicolaïsme, c'était un dire dans une Église. C'est devenu une doctrine dans l'âge de l'Église suivant. Et dans le troisième âge de l'Église, c'était une contrainte. Et ils ont tenu le concile de Nicée. Et c'est là qu'ils en ont fait une doctrine d'Église. Et la première chose qui est arrivée, c'est quoi? Une organisation en est sortie. N'est-ce pas vrai, ça? Dites-moi, d'où est venue la première Église organisée? De l'Église catholique romaine. Dites-moi, est-ce que l'Apocalypse ne déclare pas, dans le livre d'Apocalypse 17, qu'elle était une prostituée et que ses filles étaient des prostituées? Celles qui ont formé une organisation avec elles, elles sont pareilles, des prostituées. Elles prennent les abominations, les impuretés de leur fornication comme doctrine. Elles enseignent comme doctrine des commandements d'hommes. Remarquez, regardez, il part pour vaincre. Remarquez, il n'a pas de couronne. C'est du cavalier au cheval blanc que je parle, là. Voyez, un arc et une couronne lui fut donnée après. Voyez, il n'avait pas de couronne pour commencer, mais une couronne lui a été donnée. Remarquez, plus tard une couronne lui a été donnée. Oui, même trois en une. C'est arrivé 300 ans plus tard, au Concile de Nicée, alors qu'il avait commencé comme esprit de nicolaïsme à former une organisation parmi le peuple. Et ça s'est poursuivi, ça a continué et continué. C'est devenu un dire, ensuite c'est devenu une doctrine. Vous vous souvenez, Christ, quand il s'était adressé à l'Église, il avait dit « Tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi ». D'essayer de conquérir, de prendre le Saint-Esprit, qu'il y ait seulement un seul homme saint, c'est lui qui peut pardonner tous les péchés et tout. On vient de le lire, là, le passage où Paul en a parlé. Cette créature serait assise là dans les derniers jours et ne pourrait pas être révélée avant les derniers jours. Alors, celui qui retient, il retirera l'Esprit de Dieu de là. Et alors, il se révélera. Aujourd'hui, il est déguisé en cheval blanc. Regardez-le bien se transformer à partir de ce cheval blanc dans quelques minutes. Non seulement il devient un cheval blanc, mais il devient une bête avec plusieurs têtes et plusieurs cornes. Voyez, voyez, le cheval blanc, là, c'est un imposteur. Et voilà pourquoi les gens, pendant tout ce temps, ne l'ont pas su. Ils y ont pensé. Mais voilà que maintenant, cela va être révélé par l'Écriture. Remarquez, le nicolaïsme, vous voyez l'Antichrist, quand finalement il s'incarne dans un homme, c'est là qu'il est couronné. Quand il prend le départ, comme esprit de nicolaïsme dans l'Église, c'est un esprit. On ne peut pas couronner un esprit. Mais 300 ans plus tard, il est devenu un pape, et alors ils l'ont couronné. Au départ, il n'avait pas de couronne. Mais plus tard, il a eu une couronne. Vous voyez, quand cet esprit s'est incarné, voyez, il est devenu un homme. La doctrine nicolaïte est devenue un homme. Alors, ils ont pu le couronner. Ils n'avaient pas pu le faire parce que c'était seulement une doctrine. Gloire, remarquez, et quand ce Saint-Esprit que nous avons s'incarnera pour nous, que celui qui est maintenant parmi nous, sous la forme du Saint-Esprit, s'incarnera pour nous dans la personne de Jésus-Christ, nous le couronnerons roi des rois. C'est vrai, voyez. Maintenant, souvenez-vous, à peu près au même moment où Christ est venu sur le trône, l'Antichrist est venu sur le trône. Judas, à peu près au même moment où Christ a quitté la terre, Judas a quitté la terre. Presque au même moment où le Saint-Esprit est revenu, l'Antichrist est revenu. Vous savez, Jean a dit ici, « Petits enfants, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. » Vous savez, au sujet de l'Antichrist, car il est déjà là et agit dans les fils de la rébellion. L'Antichrist, à cette époque, il était là. Il avait commencé à développer là l'esprit nicolaïte pour faire une organisation. Ce n'est pas étonnant que j'ai détesté cette chose-là. Voyez, voyez, voilà, ce n'était pas moi. C'était quelque chose à l'intérieur de moi. Voilà de quoi il s'agissait. C'est apparu au grand jour, vous le voyez, et je tournais autour. Je ne l'avais pas vu jusqu'à maintenant, mais maintenant je le sais. Voilà ce que c'est, cet esprit nicolaïte que Dieu détestait. Et là, cet esprit s'est incarné, et ils l'ont couronné. Et voilà, c'est ici, c'est ce que la Bible a dit qu'ils en feraient. C'est parfait. Oh là là, incarné. Il est devenu un homme, et alors ils l'ont couronné. Lisez, remarquez. Ou plutôt, lisez ce que Daniel dit sur la manière dont il va s'emparer du royaume de l'Église. Vous aimeriez le lire? On a le temps de le faire, n'est-ce pas? Très bien. Écoutez, retournons dans Daniel un instant. Reprenons le livre de Daniel et on va lire pendant un instant. On n'en a plus que pour environ 15 ou 20 minutes ou 30 ou quelque chose comme ça. Ça vous va? Prenons Daniel au chapitre 11 et prenons le verset 21. C'est Daniel ici. Daniel qui dit comment cet homme va faire pour prendre le contrôle. Et un homme méprisé s'élèvera à sa place, en parlant de Rome, auquel on ne donnera pas l'honneur du royaume. Regardez bien là. Mais il entrera paisiblement et prendra possession du royaume par des flatteries. C'est exactement ce qu'il a fait. C'est ce que Daniel a dit que cet antichrist ferait. Il s'adaptera à ce que les gens veulent avoir en place. Oui, ça correspondra à leur penchant d'aujourd'hui pour les églises. En effet, dans cet âge de l'Église, celui-ci, ils ne veulent pas de la parole, Christ, mais ils veulent l'Église. La première chose qu'ils vous demandent, ce n'est pas si vous êtes chrétien. À quelle église appartenez-vous? À quelle église? Ils ne veulent pas de Christ, la parole. Allez leur parler de la parole et leur dire comment mettre leur vie en ordre. Ils ne veulent pas de cela. Ce qu'ils veulent, c'est vivre comme ça leur chante, tout en appartenant à l'église et en maintenant leur témoignage. Voyez, voyez. Alors, il répond parfaitement à leur attente. Et souvenez-vous, ce « il s'est finalement appelé « elle » dans la Bible. Et « elle », c'était une prostituée. Et elle a eu des filles. Ça répond parfaitement au goût du jour, à ce que les gens veulent. Voilà. Dieu l'a promis. Quand la parole est refusée, alors ils sont livrés à leurs propres désirs. On va encore lire dans Thessaloniciens. Je voudrais que vous regardiez ça de près. Oui, eh bien, on l'a lu tout à l'heure. 2 Thessaloniciens 2, 9 à 11. Là, il est dit ce qu'ils feraient. En refusant, en rejetant la vérité, ils seraient livrés à leur sens réprouvé. Ils croiraient un mensonge et ils seraient damnés à cause de ça. Or, voilà ce que le Saint-Esprit a dit. Or, n'est-ce pas là le désir de l'Église aujourd'hui? Essayez donc de dire aux gens qu'ils doivent faire ceci, cela ou autre chose. Ils vous feront tout de suite savoir qu'ils sont méthodistes, presbytériens ou quoi encore, qu'ils n'ont pas à ramer dans votre barque. Voyez, certainement, c'est ce qu'ils veulent. Et Dieu a dit, si c'est ce qu'ils veulent, alors je vais les laisser la voir, et je leur ferai vraiment croire que c'est la vérité, car je leur donnerai un esprit réprouvé en ce qui concerne la vérité. Maintenant, regardez bien ce que la Bible dit encore ici. De même que Jannès et Jambres s'opposèrent à Moïse, dans les derniers jours, ces individus à l'esprit réprouvé en ce qui concerne la vérité feront de même. Ils changeront la grâce de notre Dieu en dissolution. Ils renieront le Seigneur Dieu. Maintenant, vous voyez ce qui se passe. Pas seulement les catholiques, mais aussi les protestants. C'est toute la chose. C'est tout le monde organisé au complet. C'est ce cavalier au cheval blanc, sous des dehors de blanc, justice, d'une église, vous voyez, mais un antichrist. Il faut qu'il se ressemble, jusqu'à arriver sur un cheval, tout comme Christ arrive sur un cheval. Voyez, oh, anti, c'est tellement proche que ça séduirait même les élus. Et le voilà, c'est l'antichrist. Il a commencé sa course au premier âge de l'église, et il continue et continue sa course à travers tous les âges. Maintenant, regardez-le bien. Vous dites, déjà là, du temps des apôtres, à l'époque, il s'appelait le nicolaïsme. Ensuite, l'âge de l'église suivant, là, il est devenu une doctrine dans l'église. D'abord, il était seulement un dire. Ensuite, il est devenu une doctrine. Les gens élégants, célèbres, bien habillés, très instruits, raffinés, ils ne voulaient pas de toute cette excitation dans l'église. Non, ils ne voulaient pas de toute cette affaire de Saint-Esprit. Il fallait que ce soit une église, et nous irons tous au Concile de Nicée, et tout, à Rome. Alors, quand ils y sont allés, ils ont pris l'église, et ils ont pris le paganisme, le catholicisme romain, ou le paganisme, la Rome païenne, et quelques superstitions. Et ils ont pris la Astarté, la reine du ciel, et ils en ont fait Marie, la mère. Ils ont pris des morts comme intercesseurs, et tout. Et ils ont pris cette hostie ronde, cachère, qui est encore placée là, ronde, et ils ont appelé ça le corps de Christ, parce qu'elle représente la mère du ciel. Quand un catholique passe devant, il fait le signe de la croix. En effet, les lumières qui brûlent à l'intérieur, c'est censé être le pain cachère, qui devient Dieu par le pouvoir du prêtre. Alors qu'en fait, ce n'est rien d'autre que du paganisme pur et simple. Voyez, c'est vrai. Je ne comprends vraiment pas. En fait, oui, je comprends. Oui, je comprends. Oui, monsieur. Je le comprends par la grâce de Dieu, certainement. Maintenant, remarquez. Oh là là, mais comment peuvent-ils faire ça? Voyez, et ils reçoivent ce qu'ils désirent. Non, c'est vrai. Vous n'êtes pas obligé de faire cela. Non, monsieur. Si vous ne voulez pas le faire, vous n'y êtes pas forcé. Si vous ne voulez pas vous conformer à ce que Dieu demande comme vie et tout, comme adoration, vous n'êtes pas obligé de le faire. Dieu ne force personne. Mais je vais vous dire quelque chose. Si votre nom a été mis dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde, vous serez si content de le faire. Vous mourrez d'impatience de le faire. Écoutez, vous dites, sachez-le bien, je suis tout aussi religieux que vous. Eh bien, c'est peut-être vrai. Regardez, qui peut dire que ces prêtres n'étaient pas religieux du temps du Seigneur Jésus? Qui peut dire qu'Israël n'était pas religieux dans le désert? Alors qu'ils étaient même, mais Dieu m'a béni tant de fois. Oui, Et il les a bénis, eux aussi. Ils n'avaient même pas besoin de travailler pour gagner leur vie. Ils faisaient tomber leur nourriture du ciel. Et Jésus a dit, « Ils sont tous perdus, finis, ils ont péri. » Il disait, « Nos pères ont mangé la manne dans le désert pendant 40 ans. » Jésus a dit, « Et ils sont tous morts, séparés éternellement. » Voyez, il a dit, « Mais je suis le pain de vie qui est descendu du ciel d'auprès de Dieu. L'homme qui mange de ce pain ne mourra jamais. » Voyez, il est l'arbre de vie. Remarquez bien comment et quand Jésus est venu. Ces prêtres, ils se sont présentés là, très religieux. Ah, personne ne pouvait dire qu'ils n'étaient pas des gens bien. Oh là là, ils suivaient la loi à la lettre. Tout ce que l'Église leur dictait, ils le faisaient. Sinon, on les lapidait. Et donc, il est arrivé là. Vous savez comment Jésus les a appelés? Jean les a appelés. Vous, bande de serpents dans l'herbe, n'allez pas croire que, parce que vous appartenez à cette organisation, vous ayez quoi que ce soit à faire avec Dieu. Jésus, lui, il a dit, « Vous avez pour père le diable. » Il a dit, « Chaque fois que Dieu envoie un prophète, qu'est-ce qui est arrivé? Vous l'avez lapidé et jeté dans la tombe. Et maintenant, vous allez là-bas polir son tombeau. » N'est-ce pas exactement ce que l'Église catholique a fait? Voyez Jeanne d'Arc, Saint Patrick et tous les autres. Ce sont eux qui les mettent dans la tombe. Et ils ont déterré le corps de Jeanne d'Arc et l'ont jeté au fleuve quelques centaines d'années plus tard. Et il l'avait brûlée comme sorcière. Vous avez pour père le diable, et vous faites ses œuvres. C'est exactement ça. Ceci ira dans le monde entier. Voyez, c'est vrai. C'est ce que Jésus a dit. Et vous pensez qu'il est très bien, il a belle apparence, ce cheval blanc. Seulement, regardez ce que vous avez. Voilà précisément celui qui le monte. Bon, mais il a dit que, puisque c'est ce qu'il voulait, alors il leur enverrait une puissance d'égarement. Souvenez-vous, cette prostituée d'Apocalypse 17, elle était le mystère. Mystère, Babylone, la mère des prostituées. Et Jean a été émerveillé devant elle. Exactement comme cet homme. Regardez, attendez qu'on y arrive et qu'on le voit regarder ce cheval-là. Voyez, mais si vous remarquez, il était... Ce qui est arrivé, c'est ceci. Il a été saisi d'un grand émerveillement devant elle. Mais le mystère, c'était qu'elle avait bu le sang des martyrs du Christ. Une église magnifique, assise là, parée de pourpre et d'or. Elle tenait dans sa main une coupe remplie des impuretés de sa fornication. La fornication, c'est quoi? C'est une vie impure. C'est sa doctrine qu'elle répondait. Elle prenait la parole de Dieu et l'annulait par des « Je vous salue Marie » et toutes ces autres choses qu'elle répondait. Et les rois de la terre ont commis la fornication avec elle. Mais vous dites, ça, c'est l'Église catholique. Mais elle était la mère de prostituées. Voyez-vous, la même chose qu'elle. Alors, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Une fois que le réformateur est mort et que son message s'est éteint, vous en avez fait une organisation avec une bande de riquis là-dedans. Et vous êtes tout de suite revenu au jour de vie que vous vouliez mener. Vous ne vouliez pas vous en tenir à la parole. Au lieu de continuer à avancer avec la parole, ils sont restés là. Ce qu'il faut, c'est ceci. Vous ne devez pas faire ça. Ce qu'il faut, c'est lui. Vous voyez, lui, en haut. Remarquez, ça, c'est un point. Nous voulons seulement voir quelques autres avant de terminer. Il est le prince qui devait détruire le peuple de Daniel. Le croyez-vous? Maintenant, je vais montrer cela. Si vous voulez bien m'aider et être indulgent vers moi pendant quelques minutes, je vais faire aussi vite que possible. Mais je veux montrer cela avec certitude, parce que le Saint-Esprit m'a donné cela. Aussi sûr que je suis ici devant vous. Voyez? Voyez? Maintenant, regardez. Reprenons Daniel un instant. Je veux vous lire quelque chose. Si vous ne le reprenez pas, ça ne fait rien. Je veux lire Daniel 9. Daniel 9. Et je veux lire les versets 26 et 27 de Daniel 9. Et voyez si ce n'est pas lui qui doit détruire le peuple de Daniel et ce qu'il fera. Après les 62 semaines, un Messie sera retranché. Vous voyez, ce sont les 62 semaines. Il serait retranché là, à partir des 70 semaines. Il n'aura personne pour lui, mais pour le peuple et un prince. C'est la hiérarchie là. Qui viendra, détruira la ville et le sanctuaire. Et sa fin arrivera comme par une grande inondation. Il est résolu que les dévastations dureront jusqu'à la fin de la guerre. J'aimerais vous poser une question. Après que Christ a été retranché de la terre, dans les 3 ans et demi de son ministère, qu'est-ce qui a détruit le temple? Qui l'a détruit? Rome, bien sûr. Constantin ou... Non, excusez-moi. Titus, le général romain. C'est lui qui a détruit le prince. Maintenant, remarquez. Regardez ceci, les amis. Il est descendu là, ce mur. Quand Jésus est né, le dragon rouge dans le ciel s'est tenu près de la femme pour dévorer son enfant aussitôt qu'il naîtrait. Pas vrai? Qui a essayé de dévorer l'enfant quand il est né? Rome. Voyez? Le voilà, le dragon rouge. Le voilà, votre prince. La voilà, votre bête. Voyez? Les voilà, chacun d'eux. C'est le même, vous voyez? Dévorer l'enfant. Dieu l'a enlevé dans le ciel. Elle s'est assise sur son trône. C'est là que Christ se trouve en ce moment, jusqu'au temps marqué. Voyez? Maintenant, remarquez ce qu'il fera. Maintenant, oh, maintenant, je crois que j'en parlais à quelqu'un ici. C'était peut-être à frère Robertson, aujourd'hui, ou à quelqu'un, que je parlais de ceci. De, pas précisément de ceci, mais du même sujet. Je crois que j'ai prêché là-dessus ici, il n'y a pas longtemps, sur ce qui arrivera aux États-Unis quant à la situation monétaire. Voyez? Eh bien, nous payons nos dettes actuelles avec les impôts qui seront prélevés dans 40 ans. Voilà à quel point nous sommes endettés. Est-ce que vous avez déjà syntonisé CARE, là-bas, ou écouté l'émission Lifeline, voyez, provenant de Washington? Mais on est complètement fauchés. Voilà tout. Qu'est-ce qu'il y a? Tout l'or est emmagasiné. Et ce sont les Juifs qui détiennent les bons. Ce sera Rome. Maintenant, regardez bien. Nous savons qui sont les propriétaires des grands magasins. Mais c'est Rome qui possède la majeure partie des richesses du monde. Le reste est entre les mains des Juifs. Maintenant, regardez bien ceci. Maintenant, écoutez bien ceci. La façon dont le Saint-Esprit me l'a montré. Il fera avec beaucoup une solide alliance d'une semaine. Maintenant, remarquez. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et les obligations. Le dévastateur ira à l'extrême de l'abomination jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fonde sur le dévastateur. Regardez bien. Oh, comme il est astucieux. Le voilà. Maintenant, nous avons saisi l'image et nous savons qu'il est Rome. Nous savons qu'il est le cavalier au cheval blanc. Nous savons qu'il est sorti en tant que doctrine. Et puis, qu'est-ce qui est arrivé à la Rome païenne? Elle est devenue la Rome papale et elle a été couronnée. Maintenant, regardez bien, au temps de la fin, pas dans les premiers jours où Christ prêchait, mais au temps de la fin, la dernière partie de la semaine, ce qu'on vient de voir, les 70 semaines de Daniel. Christ a prophétisé pendant 3 ans et demi et il reste encore 3 ans et demi à venir. Pas vrai? Et ce prince, en ce temps-là, il doit faire une alliance avec le peuple de Daniel, c'est-à-dire les Juifs. Or ça, c'est une fois que l'épouse est enlevée. Elle ne verra pas cela. Remarquez, dans la dernière moitié de la semaine de Daniel, le peuple fait une alliance. Ce prince, il fait une alliance avec Rome. Il fait une alliance avec eux à cause de leur richesse, sans aucun doute, vu que ce sont les catholiques et les juifs qui détiennent les richesses du monde. Je suis allé au Vatican. J'ai vu la triple couronne. Je devais être reçu en audience auprès du pape. Le baron von Blumberg avait réussi à m'obtenir cela pour un mercredi après-midi à 3 heures. Quand j'avais été conduit auprès du roi, ils avaient défait les revers de mon pantalon. D'accord. On m'avait dit de ne jamais lui tourner le dos en le quittant. D'accord. Mais j'ai dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse devant ce personnage-là? On m'a dit, vous n'avez qu'à entrer, fléchir le genou devant lui et lui baiser le doigt. J'ai dit, pas question, pas question. Non, monsieur. J'ai dit, je suis prêt à appeler frère n'importe quel homme qui veut être un frère. Je suis prêt à l'appeler révérend s'il veut qu'on lui donne ce titre. Mais pour ce qui est d'adorer un homme, ça, c'est réservé exclusivement à Jésus-Christ. Voyez? Non, non, monsieur. Je ne baiserai la main d'aucun homme comme ça. Ça, non. Alors, je ne l'ai pas fait. Mais j'ai quand même pu traverser le Vatican d'un bout à l'autre. Oh, vous n'arriveriez pas à l'acheter pour 100 milliards de milliards de dollars. Eh bien, vous... Et pensez-y, les richesses du monde, dit la Bible, ont été trouvées chez elle. Oh, pensez à ces lieux grandioses, aux milliards de... Pourquoi le communisme a-t-il surgi là-bas en Russie? Ça me fait mal au ventre d'entendre tant de prédicateurs s'époumoner à parler du communisme. Ils rouspètent et ils ne savent même pas de quoi ils parlent. C'est vrai, le communisme en soi n'est rien. C'est un outil dans la main de Dieu pour tirer vengeance du sang des saints sur la terre. C'est vrai. Et après que l'Église aura été enlevée, Rome et les Juifs vont faire alliance l'un avec l'autre. La Bible a dit qu'ils le feraient avec le peuple saint. Et maintenant, remarquez, ils vont la faire parce que, quoi? Notre pays court à la faillite. Et le reste du monde, qui base son économie sur l'étalon or, est tout aussi fauché. Vous le savez, si nous vivons en ce moment des impôts qui seront dus dans 40 ans, où en sommes-nous? Il n'y a qu'une chose qui puisse se faire, c'est de retirer la monnaie de la circulation et de rembourser les bons. Et ça, nous ne pouvons pas le faire. Ils appartiennent à Wall Street. Et ce sont les Juifs qui sont à la tête de Wall Street. Le reste est au Vatican. Les Juifs possèdent le reste à Wall Street avec le commerce mondial. Nous ne pouvons pas retirer la monnaie. Et s'ils pouvaient le faire, pensez-vous, ces manias du whisky et tous ceux du tabac qui, avec des revenus de milliards de dollars chaque année, et ils se dégagent de tous leurs impôts en produisant des films vulgaires et des choses semblables. Ils vont en Arizona, là-bas, ils y achètent des millions d'hectares de terre, ou des milliers, et ils creusent de grands puits de 50 000 dollars, et ils payent ça avec leurs impôts. Mais vous, on vous mettra en prison si vous ne payez pas les vôtres. Seulement eux, ils s'en dégagent, et ils exploitent des puits, et ils envoient des bulldozers là-bas. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent en chantier des programmes de construction de maisons. À la fin du terme suivant, avec l'argent qu'ils ont fait, il faut qu'ils investissent. Alors ils construisent des maisons, des projets immobiliers, là, qu'ils vendent des millions de dollars. Pensez-vous que ces gars-là vont faire un compromis pour changer la monnaie? C'est comme cet homme là-bas à... Comment s'appelle-t-il? Comme Castro l'a fait. Il a fait la seule chose intelligente qu'il ait jamais faite, là, quand il a détruit les bons, qu'il les a remboursés et les a détruits. Remarquez, mais nous, on ne peut pas faire ça. Ces gars-là ne le permettraient pas. Les riches marchands de la terre détiennent tout cela. Alors, il n'y a qu'une chose à faire. L'Église catholique peut rembourser. Elle est la seule qui ait l'argent. Elle peut le faire et elle va le faire. Et en le faisant, pour y arriver, elle fera un compromis avec les Juifs pour faire une alliance. Et quand elle fera cette alliance avec les Juifs, maintenant souvenez-vous, je prends ça dans les Écritures. Et donc, quand elle le fera, qu'elle fera cette alliance, nous voyons dans Daniel 8, 23 et 25, qu'il fera prospérer les métiers. Et les métiers, ce sont les industries dans sa main. Alors, il fait cette alliance avec les Juifs. Et au milieu, ses trois ans et demi, il rompt son alliance. Aussitôt que tout est réglé, qu'il a immobilisé l'argent des Juifs. Et quand il fait ça, oh là là, là là, il s'appelle l'Antichrist jusqu'à la fin de l'âge de l'Église, car il est, lui et ses enfants sont contre Christ et la parole. Cet homme s'appelle l'Antichrist. Or, il aura tout l'argent en main. Et alors, je pense que c'est à ce moment-là qu'elle sera introduite. Un instant, je vais dire ceci, et ensuite je veux y revenir dans un instant. Il s'appelle l'Antichrist, et aux yeux de Dieu, il s'appellera l'Antichrist jusqu'au temps de la fin. Bon, mais à ce moment-là, il s'appellera autrement. Maintenant, quand il aura tout l'argent bien en main, alors il rompra cette alliance avec les Juifs, comme Daniel ici a dit qu'il le ferait, au milieu de la dernière moitié des 70 semaines de Daniel. Et alors, frère, qu'est-ce qu'il va faire? Il possédera la totalité du commerce mondial et des affaires. Il fera un pacte avec le monde, parce qu'il détiendra les richesses du monde au complet. Et pendant cette période, les deux prophètes entreront en scène, et ils appelleront les 144 000. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Alors la marque de la bête, d'Apocalypse 13, sera posée, parce qu'il détient toutes les affaires, le commerce et tout, à l'échelle mondiale. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? La marque de la bête sera introduite, ce qui fait que personne ne pourra acheter ni vendre, à moins d'avoir la marque de la bête. Dieu soit loué, l'Église sera en train de jouir d'un merveilleux trois ans et demi dans la gloire. Elle n'aura pas à passer par là. Maintenant, remarquez, au temps de la fin, à la fin des âges de l'Église, là, il s'appelle Lui et ses enfants s'appellent l'Antichrist, parce que tout ce qui est contre Christ est Antichrist. Et tout ce qui est contre la parole est contre Christ, parce que Christ est la parole. Donc, il est Antichrist. Ensuite, dans Apocalypse 12, 7 à 9, quand Satan est précipité, l'accusateur, notez-le, parce que je veux que vous le lisiez. On n'a pas le temps là. Il est 21h40, 45. Vous voyez? Mais dans Apocalypse 12, 7 à 9, Satan, l'esprit, le diable, qui est là-haut en ce moment, l'accusateur de nos frères, très bien, l'Église est enlevée et Satan est précipité. Quand l'Église monte, Satan descend. Alors Satan s'incarne dans l'Antichrist et il s'appelle la bête. Ensuite, dans Apocalypse 13, il appose la marque. Voyez, quand celui qui retient, si le christianisme est conservé dans sa pureté sur la terre en ce moment, c'est seulement à cause de celui qui retient. Vous vous souvenez, ici, dans Thessaloniciens, assis dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu, pardonnant les péchés sur la terre. Et cela va se poursuivre, et l'iniquité s'accroîtra, et ainsi de suite. En effet, on ne le reconnaîtra pas tant que l'heure où il doit être révélé n'aura pas sonné. Et alors l'Église sera enlevée. Et quand elle aura été enlevée, alors il se transformera de l'Antichrist, qu'il est maintenant, oh, l'Église, la grande Église et tout, voilà qu'il devient la bête. Ah, comme j'aimerais amener les gens à voir ça. Or, souvenez-vous, l'Antichrist est la bête. C'est un seul et même esprit. Voilà la Trinité. Oui, monsieur, ce sont trois étapes de la même puissance diabolique. Souvenez-vous, le nicolaïsme, vous voyez, il fallait qu'il s'incarne avant de pouvoir être couronné. Voyez, maintenant, remarquez bien ceci. Les trois étapes. La première étape, il s'appelle l'Antichrist. La deuxième étape, il s'appelle le faux prophète. La troisième étape, il s'appelle la bête. Remarquez, le nicolaïsme, l'enseignement antichrist qui a commencé du temps de Paul, à s'opposer à la parole de Dieu, l'antichrist. Ensuite, il est appelé aussi le faux prophète. C'est-à-dire que, quand l'enseignement est devenu un homme, il était un prophète consacré à l'enseignement de la hiérarchie, de l'Église catholique. Le pape était le prophète de la fausse parole, et c'est ce qui a fait de lui un faux prophète. La troisième étape, c'est une bête, un homme qui est couronné dans les derniers jours, qui reçoit tous les pouvoirs qu'avait la Rome païenne. En effet, la bête aux sept têtes, le dragon, il a été précipité du ciel, et il est venu s'incarner dans le faux prophète. Voilà, il avait sept couronnes, et il a été précipité et jeté sur la terre et la mer. Bien, que sommes-nous en train de dire? Qui est ce cavalier sur le cheval? Savez-vous ce que c'est? C'est le surhomme de Satan. L'autre soir, je suis allé avec deux frères qui sont assis dans cette église en ce moment. Frère Norman, là derrière, et je crois, est frère Fred. Nous sommes allés entendre un homme donner un enseignement sur l'Antichrist, un homme bien connu, un des meilleurs qu'il y ait dans les assemblées de Dieu. Et son interprétation de l'Antichrist, c'est qu'ils vont extraire une certaine sorte de vitamine d'un homme et faire passer la vie de cet homme dans une grande statue qui va poser, franchir un pâté de maison d'une seule enjambée. Et ça, pouvez-vous imaginer qu'un homme rempli du Saint-Esprit, ou qui prétend l'être, soit sous l'emprise d'une illusion pareille? Alors que la Bible, ici, nous dit qui est l'Antichrist. Ce n'est pas, c'est un homme. Remarquez, ce cavalier n'est rien d'autre que le surhomme de Satan, le diable incarné. C'est un génie instruit. Maintenant, j'espère que vos oreilles sont grandes ouvertes. Ils ont fait l'essai de l'un de ses enfants, il n'y a pas longtemps, à la télévision, pour voir s'il était plus intelligent que l'autre pour poser sa candidature à la présidence. Voyez? Mais, quoi qu'il en soit, il a beaucoup de sagesse. Satan aussi. Il essaie de la vendre. Il l'a vendue à Ève. Il nous l'a vendue. Nous voulions un surhomme. Nous l'avons. Bien. Le monde entier veut un surhomme. Ils vont l'avoir. Attendez seulement que l'Église monte et que Satan soit précipité. Il s'incarnera. C'est vrai. Ils veulent quelqu'un qui puisse vraiment faire le travail. Il le fera. Instruit. C'est le surhomme de Satan, avec son instruction, avec sa sagesse, avec la théologie ecclésiastique de ses propres paroles, qu'il a forgées lui-même. Il monte son cheval blanc dénominationnel pour séduire les gens. Et il va conquérir toutes les religions du monde, parce qu'elles entrent toutes dans la confédération des églises, et la confédération mondiale des églises. Et leurs édifices sont déjà construits, et tout est en place. Il n'y manque rien. Toutes les dénominations y sont bien attachées, à la fédération des églises. Et qu'est-ce qu'il y a derrière tout cela? Rome. Et maintenant le pape proclame, nous sommes tous un. Rassemblons-nous et marchons ensemble. Et ces gens, et même certains d'entre vous du plein évangile, vous reniez, vous devez renier votre enseignement évangélique pour faire un pas comme celui-là. Qu'est-ce que vous avez fait? Tellement aveugle en ce qui concerne ces choses dénominationnelles, que vous avez rejeté la vérité. La vérité a été placée devant eux, et ils s'en sont éloignés, et ils l'ont abandonnée. Et maintenant, ils ont été livrés à une puissance d'égarement pour qu'ils croient un mensonge et qu'ils soient damnés à cause de ça. Voilà exactement ce qu'il en est. Et l'Antichrist rafle tout. La Bible a dit qu'il avait séduit tout, T-O-U-S, tous les habitants de la terre dont les noms n'avaient pas été écrits sous ses sceaux dès la fondation du monde. Maintenant, si la Bible a dit qu'il l'avait fait, il l'a fait. Ils disent, mais j'appartiens. Voilà, oui, c'est exactement ça. C'est la même institution prostituée. C'est le même système qui a commencé au début et qui est antichrist tout le long. Je vais en entendre parler, mais c'est la vérité. Je m'y attends bien. Amen. Maintenant, remarquez, il va conquérir, et il a presque déjà l'emprise en ce moment, pendant qu'il est encore l'Antichrist, avant de devenir la bête. Vous parlez de châtiment cruel. Attendez seulement. Regardez ce que ceux qui seront laissés sur la terre devront supporter. Oui. Il y aura des pleurs, des gémissements et des grincements de dents. Car le dragon, Rome, lançait de l'eau de sa bouche pour faire la guerre au reste de la postérité de la femme, ceux qui étaient restés sur la terre, après que l'épouse avait été choisie et enlevée. Et le dragon a fait la guerre au reste. Il ne voulait pas entrer. Alors, ils ont été pourchassés. Et la vraie Église aurait à subir cela, si c'était possible. Mais vous voyez, ils sont déjà sous le sang, par la grâce de Christ. Alors, ils ne peuvent pas passer par la tribulation. Il n'y a pas de période de tribulation pour eux. La prochaine chose pour l'Église, c'est l'enlèvement. Amen et Amen. On pourrait continuer là-dessus. Oh, j'aime vraiment ça. Je vais vous dire, nous parlons de la conquête qu'il va faire. Et il va vraiment conquérir. Il l'a déjà fait. C'est déjà dans la poche. Voilà tout. Ça va se régler par l'argent. Un gain sordide. Exactement. Ils aiment l'argent plus que Dieu. Tout ce à quoi ils pensent maintenant, c'est combien a-t-il d'argent? Qu'est-ce que c'est? Vous savez, on a souvent dit, donnez l'argent à l'Église et elle révolutionnera le monde. Donnez l'argent à l'Église et elle enverra des évangélistes dans le monde entier. Et que va-t-elle faire? Elle va gagner le monde à Christ. Je vais vous dire quelque chose, mon pauvre ami aveugle. Ce n'est pas par l'argent que le monde est gagné, mais par le sang de Jésus-Christ. Donnez à Dieu des hommes vaillants, qui vont s'en tenir à cette parole, à la vie, à la mort. C'est ça qui va vaincre. Oui, les seuls qui pourront vaincre, ce sont ceux dont les noms ont été écrits dans le livre de vie de l'agneau, dès la fondation du monde. Ce sont les seuls qui l'écouteront. L'argent n'aura rien à y voir. Il les enfoncera encore plus dans les traditions de leur dénomination. Voyons un peu. Oui, ce sera un homme de génie, avec beaucoup d'instruction. Il sera intelligent. Oh là là, là là. Et tous ses enfants autour de lui seront intelligents. Doctorat en philosophie, doctorat en droit par-ci, doctorat en droit par-là. Q, S, D, A, B, C, D, E, F, jusqu'à Z. Ils auront tout ça. Ils sont intelligents. Pourquoi? C'est selon le modèle de Satan. Toute ruse astucieuse qui se pose à la Bible vient de Satan. C'est exactement comme ça qu'il a attrapé Ève. Ève a dit, « Oh, il est écrit, Dieu nous a dit de ne pas faire ça. » Il a dit, « Mais attends, sûrement que Dieu ne le fera pas. Voici, je vais t'ouvrir les yeux et te donner de la sagesse. » Elle l'a reçue. On voulait la voir. Nous aussi, on l'a eu. Cette nation l'a eu. Remarquez, il va conquérir le monde religieux tout entier. Il va conquérir. Il va faire une alliance avec le peuple de Daniel. Le voici, à la fois chez les nations et chez le peuple de Daniel, les Juifs, pour les dernières semaines. Et voilà, nous en sommes. C'est même dessiné sur des tableaux. Et vous le voyez parfaitement. Voilà ce qu'il en est. Dieu soit remercié. Le voilà. Ce système d'organisation, c'est du diable. Et je ne prends pas de gants blancs là. Voyez, exactement. C'est la racine du diable. C'est pas les gens maintenant, pas les gens qui s'y trouvent. Ce sont des enfants de Dieu, beaucoup d'entre eux. Mais savez-vous quoi? Quand on en arrivera à l'endroit où ces trompettes sonnent, et la prochaine fois que je serai avec vous, ces trompettes qui sonnent, souvenez-vous, quand le dernier ange, ce troisième ange est passé, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple !» Quand cet ange vole, en même temps le message est apporté ici pour la dernière trompette, le message du dernier ange, l'ouverture du dernier sceau. Tout cela arrive en même temps. Oui, monsieur, on hisse toutes les quilles et tout passe dans l'éternité. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? En même temps que ce personnage est en train de conquérir, et je vais terminer, Dieu aussi va faire quelque chose à ce moment-là. Ne tenons pas seulement compte de Satan dans tout cela, vous voyez? Ne parlons pas rien que de lui. Voyez, pendant que cette grande chose se déroule là-bas, ce grand système qui fait son chemin dans les organisations pour aboutir à une union, pour constituer un front et s'opposer au communisme, sans savoir que c'est Dieu qui a suscité le communisme pour les vaincre. Certainement. Qu'est-ce qui a donné naissance au communisme en Russie? C'est l'impureté de l'Église romaine et des autres. Ils ont pris tout l'argent qu'il y avait en Russie et ont laissé les gens mourir de faim, en ne leur donnant rien, et au lieu de vivre comme le reste du monde. Il n'y a pas longtemps, je suis allé au Mexique, et j'ai vu ces pauvres petits-enfants. Aucun des pays catholiques n'est autosuffisant, pas un seul d'entre eux. Demandez-moi où, montrez-moi où. Tous les pays sous l'emprise catholique ne peuvent même pas subvenir à leurs propres besoins. La France, l'Italie et tous les autres, le Mexique, où que vous alliez, ils ne sont pas autosuffisants. Pourquoi? Parce que l'Église leur a pris tout ce qu'ils avaient. C'est pour cette raison que la Russie l'a mise à la porte. Regardez ce qui s'est passé. Je le sais pour l'avoir vu moi-même. J'étais là-bas et on aurait cru que le jubilé d'or était arrivé, d'entendre sonner les cloches. Et voilà une pauvre petite femme qui descend la rue en se traînant les pieds. Et le père qui porte le bébé et deux ou trois petits-enfants qui pleurnichent. Elle faisait pénitence pour une morte là-bas. Elle pensait qu'elle irait au ciel à cause de cela. Oh, comme ça fait pitié. Et puis, j'ai vu là-bas, voilà que ils ont une économie tellement déséquilibrée. L'Église leur prend tout ce qu'ils ont. Voilà le petit Pancho, peut-être. Peut-être que Pancho voudrait dire Franck. Il arrive là, lui, il est maçon, et il gagne 20 pesos par semaine. Mais il lui faudra débourser ses 20 pesos au complet pour se payer une paire de chaussures. Voilà leur système économique. Mais alors, là, qu'en est-il si lui, un maçon, un ouvrier maçon, il gagne 20 pesos par semaine, disons. Je ne sais pas combien il gagne, mais disons que c'est un peu ça leur système économique, la façon dont il est équilibré. Remarquez, maintenant, si lui, il gagne 20 pesos par semaine. Voici Chico, vous voyez ce qui veut dire le petit. Et lui, il travaille là-bas pour environ 5 pesos par semaine. Et il a 10 enfants à nourrir, mais quelqu'un viendra frapper à sa porte. Et lui prendre environ 5 de ses pesos, ou en tout cas 4, pour payer un cierge quelconque qui brûlera pour ses péchés sur un autel d'or $1 million. Voilà, c'est là l'équilibre de leur système économique. C'est comme ça que ça se passe dans ces pays. La chose rafle tout. L'Église rafle tout. Elle l'a dans ses mains. Voilà tout. Et elle, avec l'argent des Juifs, par cette alliance, comme la Bible l'a dit, ils vont tout prendre. Et alors, il devient une bête. Il rompt son alliance et il use de violence. il met en pièces le reste de la postérité de la femme. Comme ça, il lance de l'eau de sa bouche, il fait la guerre. Et il y aura des pleurs, des gémissements et des grincements de dents. Et l'épouse est en train de se marier dans la gloire. Vous voyez, au même moment. Ne manquez pas cela, mon ami. Que Dieu m'aide. Je veux y être. Quel que soit le prix à payer, je veux y être. Maintenant, remarquez, en même temps que ceci se déroule, ou plutôt juste avant que ça ait lieu sur la terre, Dieu a promis, au milieu de tout ce méli-mélo des dénominations qui discutent sur leurs différences de credo, Dieu a promis de nous envoyer un vrai prophète de la vraie parole avec un message, de revenir à la parole de Dieu originelle et à la foi des pères pour faire descendre la puissance du Saint-Esprit parmi les gens avec une puissance qui les lèvera au-dessus de ces choses et la fera entrer au même moment. Oui, la même parole confirmée par Jésus-Christ pour montrer qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation. Et les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Je serai là avec vous, encore un peu de temps, et ils ne me verront plus, parce qu'ils vont faire une organisation et s'égarer. Mais vous me verrez, car je serai avec vous. Je serai même en vous, jusqu'à la consommation. C'est là qu'il a dit que sa fureur serait déversée après la consommation. Voilà, ô Dieu, qui est ce cavalier au cheval blanc? Vous n'êtes pas aveugle. Vous voyez qui c'est. C'est cet antichrist et cet esprit séducteur qui a fait son chemin là et qui s'est introduit. Fait. Et alors, voyez-vous, Dieu ne fait que répéter continuellement. Il le montre comme un homme qui sort sur un cheval blanc avec son arc, mais pas de flèche. C'est un bluffeur. Il n'a aucune puissance. Vous dites, la puissance de l'Église, où est-elle? Qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, nous sommes l'Église originelle. L'Église originelle, elle chassait les démons, guérissait les malades et ressuscitait les morts. Elle avait des visions et tout le reste. Où en est-elle maintenant? Voyez, c'est un bluff, un arc, mais pas de flèche. C'est vrai. Mais vous voyez, quand Christ est arrivé, une épée sortait de sa bouche, semblable à un éclair. Elle est sortie, elle a consumé ses ennemis et elle a jeté le diable au loin. Elle a retranché tout le reste, et il est venu, son vêtement teint de sang, et sur sa cuisse était écrit la parole de Dieu. Amen. Le voilà qui vient avec son armée, qui vient du ciel. Ce cavalier au cheval blanc a été dans le pays pendant tout ce temps-là. D'Antichrist, il se transformera. C'est ce qu'il fait, et il devient un faux prophète. Vous voyez, d'abord, il a commencé en tant qu'Antichrist, l'Esprit. Ensuite, il est devenu un faux prophète. Ensuite, plus tard, quand le diable est précipité, c'est là qu'il s'incarne avec le diable. Trois étapes. D'abord, c'est un démon, pour commencer, un esprit du diable. Ensuite, il devient un faux prophète, un docteur qui enseigne une fausse doctrine. Et puis, il arrive, le diable lui-même, incarné. Voyez, le voilà. Et au même moment où le diable est précipité du ciel et s'incarne dans un homme, le Saint-Esprit monte et redescend dans des hommes de chair. Amen. Oh là là, quel moment glorieux. Demain soir, Dieu voulant, le deuxième sceau. L'aimez-vous? Maintenant, vous le croyez? Je viens d'arrêter l'enregistrement. Maintenant, je vais en entendre parler. Vous le savez, voyez, mais je m'y attends. Je vais vous dire quelque chose, frère. C'est maintenant seulement que, pour une fois dans ma vie, je sais pourquoi l'Esprit m'a toujours mis en garde contre elle, cette organisation. Je suis reconnaissant au Seigneur Dieu de m'avoir montré ces choses. Je sais que c'est la vérité. Le voilà, c'est révélé ici même. Il est là, sur son cheval. Il parcourt l'âge d'un bout à l'autre. Il arrive ici, devant, et se dévoile aussi parfaitement qu'il est possible de le faire. Vous voyez, c'est lui. Maintenant, nous ne sommes pas séduits à ce sujet. Vos yeux sont ouverts maintenant. Tenez-vous éloignés de ce genre de choses. Aimez le Seigneur de tout votre cœur et restez fermement attachés à lui. Oui, monsieur, sortez de Babylone. Trois choses prouvées par la parole, montrées par une photo, manifestées par les œuvres de l'Esprit, confirmant que c'est bien la parole. Fais que la parole vienne sur ces mouchoirs, Seigneur. Guéris les malades. Guéris tous les malades qui sont présents, Seigneur. et ceux là-bas qui nous écrivent et nous appellent. Père, en cette heure, il y a une autre guérison qui doit s'opérer maintenant même, puis nous pourrons passer au service de guérison. Mais, Seigneur, il s'agit de l'âme. Nous voulons qu'elle soit bien en ordre, Seigneur. Et il faut que ces choses arrivent. Nous te prions, ô Dieu, de prendre maintenant ces paroles qui ont été dites et de les faire devenir une réalité pour les gens. Fais qu'ils voient ce qu'il en est, Seigneur. J'étais pressé par le temps, et tu le sais, Père. Alors je prie que suffisamment de choses aient été dites pour que le Saint-Esprit prenne cela et le révèle dans les cœurs. Ceux qui notent les passages de l'Écriture, puissent-ils les étudier? Ceux qui font des bandes, ou qui écoutent les bandes, puissent-ils étudier cela, ne pas y ajouter leur interprétation personnelle, là, mais étudier simplement la parole. Accorde-le, Père. Au nom de Jésus, je remets tout entre tes mains, et pour ta gloire, Amen. Amen. Oh, merci. Oh, si quelqu'un ici ne le connaît pas, ne connaît pas son pardon, agissez maintenant. Écoutez cette réprimande claire, énergique. Si vous comptez vous rapprocher un jour, faites-le maintenant, à cause des jours qui suivront ceci. Et si c'était là l'ouverture de ce sceau, et si c'était ça, l'ange qui a envoyé là, alors que la déflagration m'a presque soulevé de terre l'autre jour, quand j'étais là-bas et que trois témoins étaient tout près. Et je vous l'avais annoncé avant de partir, qu'il y aurait une explosion qui me projetterait presque dans les airs. J'ai été élevé dans les airs par sept anges et me suis dirigé vers l'est. La secousse était telle que j'étais presque soulevé de terre. Pas vrai, frère Norman, frère Fred Southman, vous qui étiez là avec moi quand c'est arrivé, au nord de Tucson, et j'étais assis là, en train d'arracher des gratterons sur mes vêtements, exactement ce qui avait été dit dans la vision, et c'était au sud de, en direction de Tucson. Si c'est exact, levez la main, frère Fred, frère Norman, les voilà, levez-vous pour que les gens voient que vous étiez là, comme témoin. Je n'ai jamais rien entendu de semblable de toute ma vie. Et aussitôt, ils n'ont pas chassé pendant le reste de la journée. J'ai supplié Fred le lendemain matin. Il n'est pas au courant de ceci. Je l'ai supplié de sortir chasser. Je lui répétais sans cesse, « Allez, allez !» Mais il m'a dit là, il ne le fera pas. Tu t'en vas vers l'est, tout de suite. Et là, c'est sept anges. À la première déflagration, elle s'est ouverte. Oui, et si c'était ça, nous sommes à la dernière heure, voyez ? Je l'aime. Adorons-le. Je l'aime. Parce qu'il m'a aimé le premier. Levons-nous. Et à qui mon salut? Sur le bois du calvaire. Purifions nos cœurs maintenant, frères, pendant que nous courbons la tête. Mes sœurs, je vous ai parlé en termes très durs, mais je l'ai fait avec l'amour divin. Je l'ai fait parce que je vous aime. Au sujet de porter de longs cheveux, de vous habiller correctement et de vous conduire correctement, je l'ai fait par amour divin. Épurons notre conscience maintenant, pendant qu'il y a l'eau de Javel de Dieu. Demain matin, ce sera peut-être trop tard. Il pourrait s'avancer. Ces choses qui sont proclamées comme ceci, frères, pourraient signifier la fin de la fonction de médiation. Avez-vous déjà pensé à ça? Eh bien, je ne sais pas si c'est le cas. Je ne dis pas que c'est ça. Mais si c'était ça, alors quoi? Il n'y a plus de rédemption. À ce moment-là, c'est fini. J'espère que ce n'est pas ça, mais il est possible que ce le soit. Je l'aime, je... Purifie-nous, Seigneur. L'aime. Parce qu'il m'a aimé, le premier. Et a acquis mon salut sur le bois du calvaire. Que le nom du Seigneur soit béni. Gloire à Dieu. J'aime sentir cette douce atmosphère. Ne ressentez-vous pas cela? Le Saint-Esprit qui est là, tout autour, comme s'il nous inondait en circulant ainsi. Oh, que c'est merveilleux! Oh, pensez à sa miséricorde! Je l'aime! Je l'aime! Parce qu'il m'a aimé le premier. Et à qui mon salut? Sur le bois du calvaire. N'oubliez pas cela, mon ami. Ne l'oubliez pas. Emportez cela chez vous. Restez attaché à cela. Gardez-le sur votre oreiller. Ne l'oubliez pas. Restez attaché à cela. Maintenant, que Dieu vous bénisse. Frère Neville, votre pasteur.